Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une, un tiers des stations-service à sec. Le parcours du combattant continue pour faire le plein. Le réservoir vide alors qu'une nouvelle semaine commence. Comment allez-vous faire ce matin pour vous rendre au travail? Nous vous avons posé la question. L'interrogation, la question qu'on se pose tous ce matin. À quand la fin du mouvement? Les grévistes réclament 10% d'augmentation. La direction de Total fait un geste. Elle accepte d'avancer les négociations annuelles sur les salaires. Pour autant, peut-on espérer un accord cette semaine? Rien n'est moins sûr. Et puis ce chiffre effarant, 42 000 enfants sans domicile fixe en France. Voilà ce que nous apprend un rapport de l'UNICEF et du SAMU social, des conditions de vie précaires qui perturbent évidemment leur bon développement. Le journal de 5 heures présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Et vous, avez-vous pu faire votre plein pour aller travailler ce matin? Selon les chiffres du gouvernement, environ un tiers des stations sont à sec en France, près de 60% dans les Hauts-de-France, 50% en région parisienne. Vous êtes nombreux hier à avoir sacrifié votre dimanche à la recherche d'une pompe. Parfois en vain, résultat, la voiture est en réserve alors que la semaine commence. Reportage de Thibaut Hue.
Assis à l'avant de sa voiture noire, Alexandre met le contact et pointe du doigt son niveau d'essence. Son réservoir est presque à sec, alors pour travailler, cet assureur parisien doit se réorganiser.
Là, il n'y a plus rien, sachant que c'est à Rungis, donc c'est limite pour faire l'aller-retour. Heureusement, j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi, donc c'est ce que je vais faire à partir de mardi, je pense. Si vraiment je trouve pas.
Khaled, lui, a toujours la moitié de son plein, mais pour être sûr de ne pas tomber en panne dans les prochains jours, il prendra le bus ce matin pour rejoindre le bar dans lequel il fait la plonge.
Je suis obligé pour prendre le transport. Je me réveille très tôt. Et donc, j'ai assuré que je serai à l'heure à mon travail. J'ai pas le choix. Moi, j'ai un problème de genou, je peux pas marcher beaucoup.
Mais d'autres ne peuvent pas se passer de la voiture pour aller travailler. C'est le cas d'artisans comme Lionel, couvreur en région parisienne. Bientôt, sans essence, il sera bloqué chez lui.
Sur mon utilitaire, j'arrive en réserve. Pour moi, c'est net, c'est ce qui me permet de travailler. Je peux pas prendre le transport avec tout mon matériel.
C'est mon travail, c'est mon gagne-pain. J'ai une petite fille, je sais pas ce que je fais. Je me mets au RSA.
Et Lionel est formel, il demande au gouvernement une réponse rapide dès aujourd'hui pour retrouver du carburant.
Thibaut Hue, réponse du gouvernement par la voix d'Elisabeth Borne hier. La situation va s'améliorer tout au long de la semaine à mesure de l'arrivée de carburant provenant des stocks stratégiques, estime la Première ministre. De son côté, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, appelle les grévistes à arrêter les blocages.
Oui, parce que les salariés de Total Energy poursuivent le mouvement. Alban, la CGT réclame 10% d'augmentation.
Oui, 7% pour l'inflation, 3% pour le partage des richesses. Conséquence, la direction de Total fait un geste et avance les négociations annuelles sur les salaires à octobre au lieu de novembre. Aurélien Fleureau, pour autant, on n'est pas encore sorti d'affaire.
Oui, les négociations débuteront très certainement dès cette semaine, mais la CGT pose une base qui semble trop exigeante par rapport aux avancées que la direction paraît encline à faire. Pour les grévistes, il faut 10% d'augmentation sur les salaires avec effet rétroactif sur l'année 2022. Alors que pour la direction, les augmentations de salaire d'une année en cours sont toujours effectuées avec le chiffre consolidé de l'inflation de l'année précédente. Et Total Energy avait accordé 3,5% d'augmentation générale en janvier dernier. Les salariés avaient aussi touché un montant moyen de 9 000 euros d'intéressement et participation liés aux bons résultats du groupe. Selon nos informations, la direction avait assuré aux partenaires sociaux que l'augmentation de l'inflation et les encore meilleurs résultats de 2022 seraient pris en compte dans les augmentations de 2023, sauf que pour la CGT, il faut un geste dès maintenant, avant la fin de l'année. La forme et le montant de ce geste seront au cœur des futures négociations qui ne débuteront qu'une fois les blocages levés.
Précision signée Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. A noter que la direction des Esso ExxonMobil, dont deux raffineries, sont à l'arrêt, réunit dès aujourd'hui les quatre organisations syndicales pour sortir rapidement du conflit.
Emmanuel Macron est en Mayenne aujourd'hui.
Oui, déplacement sur le thème du retour de l'État dans les territoires ruraux. Le président doit inaugurer à Château-Gontier la première des 6 sous-préfectures dont il a promis la réouverture ou la création.
On prend la direction d'Alger, deuxième et dernier jour dans le pays aujourd'hui pour Elisabeth Borne. Elle est accompagnée d'une quinzaine de ministres.
Objectif acté définitivement et donner une impulsion nouvelle à la réconciliation entre la France et l'Algérie. Pour la première fois depuis 5 ans, Elisabeth Borne et son homologue Ayman Ben Abderrahmane ont présidé un comité intergouvernemental de haut niveau, sorte de conseil des ministres franco-algérien. Arthur Delaborde, vous êtes notre envoyé spécial européen à Alger. Les deux chefs de gouvernement ont conclu une douzaine d'accords.
Oui, des accords de coopération dans l'industrie, le tourisme, l'artisanat, l'agriculture, la création de start-up ou encore la culture. L'occasion pour Elisabeth Borne de mettre en avant le signe fort envoyé par ce voyage, son premier à l'étranger.
Cette visite à Alger ancre une nouvelle dynamique et un cycle durable qui profitera à nos deux peuples et leur jeunesse.
Mais au-delà du symbole, il y a la présence de pas moins de 15 ministres français autour de la chef du gouvernement. Le bilan est finalement assez maigre. Pas d'annonce sur la question sensible des visas octroyés par Paris à l'Algérie. Rien non plus sur une éventuelle augmentation des livraisons de gaz vers la France. Ce dernier point a d'ailleurs été rapidement évacué par la Première ministre.
Nous allons poursuivre nos relations sereines sur le gaz avec l'Algérie.
Elisabeth Borne s'est par ailleurs dit confiante sur la création prochaine d'une commission réunissant des historiens des deux rives de la Méditerranée afin qu'ils examinent sans tabou les archives des deux pays. Elle conclura sa visite aujourd'hui, au programme notamment un déjeuner avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune.
Arthur Delaborde, envoyé spécial Europe 1 à Alger.
Europe 1 5h06, départ Rio, arrivée Paris, nom de vol AF447, plus de 13 ans après le procès du crash du vol Rio-Paris s'ouvre aujourd'hui.
228 victimes ce 1er juin 2009 et pourtant le procès a failli ne jamais avoir lieu. Le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu avant que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris décide de le maintenir en poursuivant Air France et Airbus pour homicide involontaire. David Montagnier, les familles espèrent enfin connaître la vérité.
Oui, et notamment sur les fameuses sondes Pitot, ces tubes en métal placés sous l'avion qui permettent de mesurer la vitesse de l'appareil. Les nombreuses expertises ont démontré qu'elles avaient givré en pleine zone connue de turbulence au-dessus de l'Atlantique. Un phénomène qui avait totalement désorienté les pilotes, incapables d'éviter le décrochage de l'appareil. Pour les familles des victimes, il n'y a aucun doute sur les causes de ce crash. Maître Sébastien Buzy est l'avocat de l'association Entraide et Solidarité AF447.
Pour moi, il n'y a aucun doute sur les origines de cet accident. Ça commence par le givrage des sondes Pitot qui occupent l'appareil A330 d'Airbus. S'il n'y a pas ce givrage, il n'y a pas d'accident. Le lien, il est évident et même si Airbus le conteste, le point de départ de cet accident, c'est le givrage des sondes Pitot.
Mais le tribunal devra aussi se pencher sur l'attitude d'Air France. D'après le rapport du bureau enquête-analyse, la compagnie était au courant du dysfonctionnement de ses sondes et n'avait pas suffisamment formé ses équipages pour répondre à ce problème. Du côté des prévenus, on conteste toute faute pénale à l'origine de l'accident. Le procès s'ouvre donc cet après-midi et doit durer jusqu'au 8 décembre prochain.
David Montagnier, journaliste au service police-justice d'Europe 1. Je vous signale aussi qu'au procès de l'attentat de Nice, François Molins, ancien procureur de la République de Paris, François Hollande et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur en 2016, doivent être auditionnés aujourd'hui comme témoins.
Comment grandir lorsqu'on n'a pas un seul petit chez soi ? En France, 42 000 enfants sont sans domicile fixe.
Oui, c'est ce que révèle un rapport effarant publié ce matin par l'UNICEF et le SAMU social. Problème, vivre dans ces conditions, cela peut avoir un impact énorme sur la santé mentale de ces enfants, même lorsqu'ils seront adultes. Dépression, angoisse, manque de sommeil, d'alimentation ou encore stress. Yasmina Katou.
Des familles de 3, 4, voire 5 personnes dans des chambres d'hôtel de 15 mètres carrés. Une enfance rythmée par le passage d'un hébergement d'urgence à l'autre. La promiscuité, les problèmes de scolarisation perturbent les enfants, décrit Vanessa Benoît, directrice du SAMU social.
La première chose qui est très anxiogène pour les enfants, c'est de changer régulièrement de lieu. La deuxième chose, c'est de voir que leurs parents sont inquiets ou tristes. Quand on est enfant, on ne sait pas gérer la souffrance de ses parents et les enfants y sont confrontés en permanence. Mais c'est très contraignant pour un enfant.
Les familles vivent en moyenne 2 ans et demi à l'hôtel dans des espaces qui ne sont pas pensés pour les enfants. Une vie chahutée, morcelée qui peut durer 10 ans dans certains cas. Adeline Azan, présidente d'UNICEF France, plaide pour des solutions pérennes.
Garantir un accueil absolument inconditionnel des familles avec enfants dans des structures qui sont adaptées. D'avoir une politique de construction, de mise à disposition de logements abordables pour des familles.
L'offre de soins est aussi pointée du doigt par l'UNICEF. La France compte à peine 2000 pédopsychiatres. C'est un tiers de moins qu'il y a 20 ans.
Yasmina Katou. Et puis on termine ce journal avec un nouveau record du monde établi ce week-end. Celui de la plus grande choucroute jamais cuisinée.
Miam, miam.
Ça s'est passé évidemment en Alsace.
En Alsace, forcément, bien sûr.
Plus de 2360 kilos. Pour ça, les cuisiniers ont utilisé 200 kilos de patates, 400 de viande et 5000 saucisses knack. Ça leur a permis de servir 3000 portions et elles sont toutes parties en 2 heures.
Avec quelques litres de bière, j'imagine,
évidemment,
pour accompagner le tout.
Ouais,
merci, Alban Leprince. C'était votre journal de 5 heures sur Europe 1.
Il est 5h10 et c'est le journal des sports à présent avec Dimitri Vernet que nous retrouvons cette semaine. Et bonjour,
oui.
Dimitri.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour.
Bonjour Dimitri.
On commence par du football, Dimitri. On connaît désormais le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
Oui, et son nom vous est plus que familier. C'est Laurent Blanc qui est désormais l'entraîneur des Gones. Le champion du monde 98 et ancien entraîneur de Bordeaux et du PSG succède donc à Peter Bosch. Un choix loin d'être surprenant hein, quand on sait que le président lyonnais Jean-Michel Aulas lorgnait avec insistance sur l'entraîneur français depuis quelques années. Il l'expliquait d'ailleurs au micro d'Europe 1 Sport en début d'année.
C'est un garçon qui a une expérience incomparable. Et moi, je l'avais vu longuement en Russie pour la Coupe du Monde. Voilà, bon, les choses ne se sont pas faites pour les raisons que je vous ai expliquées. Sait-on jamais.
C'est désormais chose faite. Laurent Blanc s'engage donc avec le club rhodanien jusqu'en 2024.
Place au terrain maintenant avec la fin de la 10e journée hier.
Et oui, une journée qui s'est terminée avec le derby du Nord où Lille recevait le Racing Club de Lens. Un match qui a tourné à la faveur des Lillois. Victoire 1-0 grâce à un but sur pénalty de Jonathan David. Ce qui permet au Doc de remonter à la 7e place du classement. Plus tôt dans la journée, c'est un autre derby qui opposait Rennes à Nantes où les Rennais se sont imposés tout en maîtrise 3-0. Après un début de saison irrégulier, les Rouges et Noirs pointent désormais à la 6e place, ce qui leur permet de se rapprocher un peu plus de leur objectif, comme l'explique le coach Bruno Genesio.
L'objectif, c'est Coupe d'Europe. Voilà, c'est l'objectif qui m'est fixé par la direction du club et par le propriétaire. Pour l'instant, on a un peu pris du retard en début de saison, qu'on est en train de rattraper petit à petit, mais ça va être jusqu'à la trêve pré-Coupe du Monde qu'il va falloir être comme on l'est en ce moment.
Bruno Genesio au micro européen de Loïc Folio. Cependant, c'est une défaite qui fait très mal aux Nantais avec seulement 7 points. Ils sombrent dans la zone rouge à la 19e place. Et on termine avec la bonne opération de ce week-end. Et elle est lorientaise puisqu'en s'imposant 2-1 face à Brest, ils enchaînent avec un 6e succès consécutif et se retrouvent propulsés 2e de Ligue 1 à 1 point du PSG. Et enfin, outre-Manche, avec un mot du championnat anglais où Arsenal s'est imposé 3-2 face à Liverpool, permettant aux Gunners de prendre la tête du championnat.
Une très bonne opération ce week-end, Dimitri, mais cette fois-ci, c'était en Formule 1.
Et oui, puisqu'après sa victoire au Japon hier, le pilote Red Bull Max Verstappen a été sacré champion. Son 2e titre consécutif obtenu dans un Grand Prix complètement chaotique, marqué par des conditions météo rendant la course impraticable. En témoigne le crash du pilote Ferrari Carlos Sainz, qui a nécessité l'intervention d'un camion-grue, mais sans aucune visibilité sur la piste causée par la pluie, le Français Pierre Gasly est passé tout proche de l'engin de dépannage, ce qui a provoqué la colère du Français puisque c'est dans ces mêmes conditions et sur ce même circuit qu'a eu lieu l'accident causant la mort de Jules Bianchi il y a 8 ans.
Je pense que c'est d'irrespectueux envers Jules, envers toute sa famille et envers tous ceux qui font de la course parce que honnêtement, je suis juste déjà heureux d'être en vie, qu'il ne se soit rien passé. On en a déjà parlé des millions de fois, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et je vois pas pourquoi on n'a pas attendu une minute que les voitures rentrent au stand pour mettre le tracteur sur la piste.
Pierre Gasly au micro de nos confrères de Canal+. Et puis on termine avec un mot de rugby où en top 14, Lyon s'est imposé 36-21 face à Bordeaux-Bègles hier soir en clôture de la 6e journée. Ce qui leur permet de monter à la 10e place du classement. Classement où on retrouve en tête Toulouse, leader du championnat avec déjà 6 points d'avance sur ses opposants.
Merci Dimitri Vernet. C'était le journal des sports sur Europe 1 à 5h14. On passe aux courses hippiques, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin et mon pari gagnant sera le 407 Crack Time à tout. Deux fois deuxième pour autant de tentatives depuis le début de sa carrière, ce poulain âgé de 2 ans, issu du crack étalon FaceTime Bourbon, se présente ici avec pour seul objectif une première victoire. Et il est vrai qu'au vu de l'adversité qui lui sera opposée cet après-midi, il n'aura qu'à répéter la valeur réalisée lors de ses deux premières courses pour pouvoir ici l'emporter. Alors notez bien, pour cet après-midi à Anguin, réunion 1, dans la 4e course, le numéro 7, Crack Time à tout.
Merci Thierry Léger, et puis on découvrira vos pronostics du quintet dans une demi-heure sur Europe 1. Très bon réveil à tous, nous sommes lundi matin, 5h14. Dans un instant, Anissa Haddadi, encore une histoire dingue. Un jeune geek a réussi, figurez-vous, à hacker l'un des plus célèbres jeux vidéo de l'histoire. A tout de suite.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Bon réveil, bon lundi. Merci de commencer la semaine avec nous. C'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
Oui, l'histoire, Anissa, d'un jeune fou du clavier hein, qui a piégé l'un des plus célèbres jeux vidéo de l'histoire.
Oui, ce jeu vidéo, si vous n'avez jamais joué, vous en avez certainement entendu parler. Sorti en 97 en France, c'est un véritable raz-de-marée. On évolue dans des villes fictives et souvent, il faut voler des voitures, braquer des banques pour avancer. Vous connaissez Alexandre. Ce jeu, c'est bien sûr GTA.
Eh oui,
depuis
Auto, ouais.
25 ans, exactement. Ce jeu est devenu une vraie référence. Mais depuis quelques jours, un jeune garçon a été bien plus fort que les créateurs du jeu.
Bon, ça sent les révélations non prévues. Hein.
C'est à peu près ça. Ouais. Depuis quelques semaines, le studio Rockstar Games, créateur de GTA, a été victime d'un énorme leak. Alors un leak, c'est une fuite qui a donné lieu à la publication de pas moins de 90 vidéos du prochain GTA. De GTA 6. Donc déjà, la révélation...
Méga spoil.
Méga spoil, manque de suspense. Mais c'est pas ça le seul problème. Parce que ce jeune homme a donc été arrêté. Il a 17 ans. Il est bien plus fort que ces hommes qui ont fait des années d'études de programmation pour créer ces jeux. En plus d'avoir dévoilé des vidéos en avant-première, le plus inquiétant, c'est que ce jeune homme de 17 ans aurait en sa possession les codes sources du jeu. Mmh. Et notamment de GTA V. Et c'est très inquiétant puisque cela pourrait donner de graves failles de sécurité qui pourraient dévoiler les codes sources, ça certes, mais surtout vos données perso à vous.
Des joueurs donc.
Voilà, de tous les joueurs. Le code de GTA V aurait été vendu pour environ 100 000 $ avant un ultime rebondissement. Donc pour l'instant, les codes n'ont pas encore été dévoilés. Ce sont les joueurs qui seraient les premiers à être victimes parce que vos données personnelles seraient donc rendues publiques. Le jeune pirate avait fait du chantage à Rockstar Games en échange d'une grosse somme d'argent pour qu'il garde le silence. Qui plus est, il est possible que du contenu piraté supplémentaire soit encore dans le frigo. Parce que là, le jeune homme, il est dans les locaux de la police londonienne, mais il a encore des choses parce qu'en fait, c'est un collectif de hackers qui s'appelle Lapsus Dollar, dont T-Pot, ce fameux jeune homme, serait très proche.
Alors, il risque quoi ce petit génie de l'informatique ?
Alors, voler le code source de gros éditeurs semble être monnaie courante. C'est déjà arrivé ces dernières années. En 2021, déjà, CD Projekt, l'éditeur de jeux, subissait un important vol de données. Il risque très gros, à savoir une grosse amende et même quelques années de prison. En 2020, la justice américaine condamnait le hacker Ryan Hernandez à 3 ans de prison. L'homme avait révélé, souvenez-vous, des informations confidentielles concernant Nintendo après avoir subtilisé les codes d'accès d'un employé de l'entreprise japonaise. Alors, il a fait 3 ans de prison et il devait payer l'amende de 259 000 $ à Nintendo. Donc, on va voir ce que ce jeune homme de 17 ans risque, mais ce que Rockstar Games a le plus peur, c'est qu'il ait encore des choses le coude. Et que ses copains du collectif puissent encore dévoiler pas mal de choses.
Il ne faut pas l'engager dans ces cas-là, ce jeune hacker. Il faut que
j'étais à l'angle. De l'autre côté de la barrière.
Voilà, c'est
alors,
ça.
Dans les sociétés des éditeurs de jeux vidéo, de nombreux hackers ont été engagés après avoir révélé
énorme
des failles.
Énorme enjeu industriel, en tout cas. On rappelle que le jeu vidéo pèse plus lourd maintenant que le cinéma.
Et
GTA 6 particulièrement est probablement le jeu vidéo le plus attendu sur la planète des gamers.
Voilà. Donc certains ont vu déjà 90 vidéos.
Bon, merci beaucoup Anissa. Vous nous dévoilerez la météo en avant-première.
En avant-première, bien sûr.
Dans 10 minutes à peu près. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
Europe Matin.
5h19 sur Europe 1, les titres de ce lundi 10 octobre, Alban Le Prince.
Quasiment impossible de faire le plein ce week-end. Selon le gouvernement, un tiers des stations sont en difficulté. Mais Elisabeth Borne promet une amélioration tout au long de la semaine grâce au déblocage des stocks stratégiques. Courageuse, indispensable et difficile, Gérald Darmanin défend ce matin dans Le Parisien sa réforme de la police judiciaire qui prévoit de placer tous les services de police sous l'autorité d'un seul directeur départemental, 3 jours après le limogeage du patron de la PJ de Marseille. Emmanuel Macron en Mayenne, aujourd'hui le président doit inaugurer la première des 6 sous-préfectures dont il promet la réouverture ou la création. Vladimir Poutine accuse les services secrets ukrainiens d'être à l'origine de l'explosion sur le pont de Crimée ce week-end. Le président russe réunit par ailleurs son conseil de sécurité tout à l'heure. Et puis, la Russie est-elle à l'origine du sabotage de câbles qui a paralysé le trafic ferroviaire en Allemagne samedi ? Selon le quotidien Bild, une dégradation d'origine étatique est envisageable.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Très bon réveil à tous sur Europe 1, nous sommes lundi à 5h20. Les initiatives en France nous emmènent en Bretagne, sur l'île de Sein.
L'île de Sein qui devrait devenir la première île 100% autonome en eau et en énergie. Bonjour Didier Fouquet.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le maire de l'île de Sein. Alors d'abord, petite photo d'identité. L'île de Sein dans le Finistère est située au large de la pointe du Raz. Il faut plus d'une heure de bateau pour la rejoindre. 1,8 km de long, 500 mètres de large. Combien de temps pour en faire le tour, Didier Fouquet, pour qu'on se rendre compte.
Ah bah, ça dépend. Si on, le tour du bourg qui fait 300 mètres sur 500 mètres est fait rapidement, hein, en moins d'une demi-heure, vous le faites. Si vous souhaitez aller jusqu'au phare qui est à l'extrémité ouest et revenir, bon, faut une demi-heure aller, une demi-heure retour. Et puis après, ça dépend du temps que vous mettez pour vous arrêter, regarder le paysage ou si vous êtes pressé, que vous faites de l'aller-retour.
260 personnes y vivent à l'année, plus de 120 Sénans y passent l'hiver. On dépasse le millier avec les touristes l'été. L'île de Sein, première île 100% autonome en eau et en énergie d'ici à 2030. C'est votre ambition, Didier Fouquet, avec l'association des îles du Ponant. C'est une volonté qui n'est pas nouvelle d'ailleurs.
Non, déjà depuis plusieurs années, un collectif Sénan donc a trouvé dommage que l'on consomme 400 tonnes de fuel par an pour l'électricité. Bon, à l'époque, c'est vrai que EDF n'a pas bougé, donc ces gens-là ont souhaité pouvoir distribuer l'énergie à leur place. Et bref, ils ont fait quand même bouger les choses. Et depuis, EDF a agi. Il y a tout d'abord eu des mises en place de panneaux photovoltaïques. Donc, il y a 3-4 ans de cela, déjà, pas mal de bâtiments communaux, voire privés, en ont été équipés. Actuellement, donc, 20% à peu près de la production d'énergie provient des panneaux photovoltaïques. Il y a eu également un souci, donc, d'installer une éolienne. Alors, il a été question de plusieurs d'abord. Là, maintenant, on s'oriente vers une seule éolienne parce que l'île est protégée, classée, inscrite et qu'elle ne peut pas dépasser au niveau de la pointe des pales 45 mètres parce que nous avons aussi un phare qui sert à la navigation et puis il n'est pas question que ça interfère. Mmh. Elle devrait produire 50% de nos besoins. Donc avec les panneaux actuels, on approchera les 70-75%. Nous avons également des batteries qui permettent d'être chargées lorsque l'on en produit trop d'électricité et qui par la suite, peut-être restituer. On pense qu'on pourrait couvrir pratiquement la totalité des besoins pendant ces beaux jours.
Alors, il faut préciser, monsieur le maire, vous l'avez évoqué, mais il faut quand même bien appuyer là-dessus. L'île de Sein n'est pas raccordée au réseau national, donc vous dépendez de cette centrale à fioul. Et c'est l'idée de ne plus en dépendre et de ne plus acheminer ce fioul. Parce que là, aujourd'hui, ça représente quoi ? Combien de tonnes chaque année ?
Je vous ai dit donc que c'était 400 tonnes il y a quelques années. Depuis que nous avons les panneaux photovoltaïques, cela représente maintenant, on a baissé de 100 tonnes par an, donc on en est à 300 tonnes. Et on imagine, parce qu'on aura toujours besoin de groupes électrogènes, on imagine que d'ici quelques temps, on n'en aura plus besoin qu'un seul et encore très peu de temps. Mais on devrait être en dessous des 50 tonnes par an, je pense.
Oui. On parlait là à l'instant du fioul, hein, Didier Fouquet, mais il faut également acheminer l'eau potable par bateau, donc pas vraiment écologique. Quelle solution a été trouvée ?
Jusqu'à maintenant, donc, la plupart des habitants avaient des citernes individuelles. Moi-même, quand j'étais gamin ici, nous avions notre propre citerne. Il n'y avait pas encore de réseau collectif. Nous avons également des citernes municipales. On récupère par exemple l'eau de pluie de la mairie, des bâtiments municipaux, de l'église, mais... ce moyen ne suffisait pas non plus. Et puis bon, par la suite, il n'était plus question que l'on consomme de l'eau de pluie. Donc ces réserves existent toujours, mais servent essentiellement pour les pompiers. Donc pour la consommation, depuis les années 70-71, eh bien, il a été fait des essais pour désanalyser l'eau de mer. Et donc un réseau d'eau a été installé il y a une quarantaine d'années, avec des conduites qui viennent donc de l'endroit où se trouve maintenant l'actuel osmoseur. Donc c'est une machine qui marche par osmose inverse. Nous en avons deux, une qui produit 140 mètres cubes par jour et un autre 30. Alors, contrairement à l'électricité, bah oui, l'eau, c'est plutôt en été qu'on la consomme. Donc en été, on avoisine effectivement les 100 mètres cubes par jour. En hiver, c'est plutôt 20 ou 30. Mais on a aussi des réserves, parce que si on dessale l'eau de mer, ben, on stocke de l'eau de mer donc, que l'on pompe dans des conditions idéales, lorsqu'il n'y a pas trop de remous, que la mer rayonne, pour éviter d'avoir des débris dans l'eau. Donc on la stocke, on a une capacité de stockage d'environ 2000 m3. Cette eau ensuite est dessalée et nous pouvons stocker également 2000 m3.
Les habitants jouent le jeu, hein, Didier Fouquet. On se débarrasse des appareils trop énergivores, on isole sa maison. Tous les Sénans vont aussi vers cette sobriété totale en 2030.
Oui, alors que ça concerne l'électricité, effectivement, tout le monde, enfin, comme j'espère un peu partout maintenant, les gens font attention à en consommer moins. C'est vrai aussi pour l'eau. Quand vous allez dans les commerces, les restaurants, les bars, les maisons d'hôtes, vous avez toujours une petite affichette qui vous dit l'eau est précieuse, évitez, peut-être pas nécessaire, même l'été, après chaque baignade, de prendre une douche le matin ou le soir. Bon, ça peut peut-être suffire, n'en prenez pas 4 ou 5 par jour, vous voyez. Donc, pareil, les chasses d'eau, plus ça va, plus on a des chasses d'eau, à deux vitesses, pas nécessairement de consommer 7 litres à chaque fois. Donc, il y a ce genre de sollicitations des gens, des touristes, pour éviter de gaspiller, c'est sûr.
Merci beaucoup, Didier Fouquet, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes le maire de l'île de Saint au large du Finistère, l'île de Saint qui devrait devenir la première île 100% autonome en eau et en énergie d'ici à 2030. Bonne journée.
Merci.
De Joe Dassin. À 5h28.
Bon, qu'est-ce qui se passe? Non,
c'est le Joe Dassin qui m'a beaucoup. Et pourquoi pas? Je suis bien d'accord. Bon réveil. Merci d'être avec nous. C'est très souriant aujourd'hui. Excellent début de semaine. Nous sommes le lundi 10 octobre et au programme, mon cher Alexandre, de la prochaine demi-heure.
On vous emmène à la rencontre des colosses de nos forêts, les arbres les plus remarquables de France, sont réunis dans un très beau livre qui vient de paraître. C'est une ode à la nature, c'est aussi de furieuses envies de balade. On sera avec l'auteur du livre, Georges Fetterman, à 5h45. Juste après, on retrouvera la prescription culture.
Oui, et on se projette ce matin avec le nouveau roman de Tatiana de René, Nous irons mieux demain, c'est le conseil lecture de Nicolas Caro. Et aussi avec le choix série d'Héloïse Goy, Le monde de demain, sur l'essor du rap et de la culture hip-hop en France.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une de l'actualité, le gouvernement face à la menace de la panne sèche. Plus d'une station-service sur 5 est en situation de pénurie sur au moins un carburant. L'État mobilise les réserves stratégiques et craint une flambée des revendications catégorielles. Explication dès le début de ce journal. Total et Esso, ExxonMobil, se disent prêts à ouvrir les négociations. Une condition préalable, l'arrêt du blocage des sites. À la pompe, les automobilistes commencent à perdre patience. Inquiétude aussi des professionnels comme les routiers ou les infirmières. Dans ce journal également, la réunion du Conseil de sécurité à Moscou, 2 jours après l'explosion du pont qui relie la Crimée à la Russie. Vladimir Poutine accuse l'Ukraine, il limoge son chef d'état-major. Le journal de 5h30 présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Sortir de la crise au plus vite. Le gouvernement regarde de très près le conflit qui oppose les syndicats à la direction de Total d'un côté, Esso ExxonMobil de l'autre. 30% des stations sont en situation de pénurie sur au moins un type de carburant. L'exécutif paraît désemparé et cherche une porte de sortie introuvable, Louis Dragnel.
Eh bien, justement, le problème, comme le reconnaît en privé ce conseiller de l'exécutif, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Au gouvernement, on considère que s'il y a ces pénuries de carburant, c'est de la faute de Total et des difficultés des relations sociales internes à l'entreprise. Le dossier est quand même géré à Matignon, qui a validé la libération de certains stocks stratégiques, c'est-à-dire les entrepôts de pétrole gérés par l'État et non par les compagnies pétrolières. Elisabeth Borne se veut optimiste. Depuis l'Algérie, où elle était en déplacement, l'hôte de Matignon a promis hier une sortie de crise et une amélioration de la situation pendant la semaine. Elisabeth Borne fait le pari que la pression mise sur Total, qui a accepté d'avancer d'un mois ses cycles de négociations sur les salaires, aboutira à un geste de souplesse de la part de la compagnie pétrolière, ce qui peut d'ailleurs provoquer de l'inflation. Mais le problème politique est là. Une station-service sur 3 en France est à sec. On monte même à 55% dans les Hauts-de-France, avec une opinion publique qui a du mal à comprendre comment on en est arrivé là, d'autant que cette crise n'a aucun lien avec la guerre en Ukraine.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1.
Les deux compagnies pétrolières concernées acceptent donc d'ouvrir les négociations, mais le temps presse, la liste des stations en difficulté s'allonge dangereusement.
Chez Total, la CGT accepte la main tendue, mais ne parle pas de suspendre son mouvement de blocage. 3 raffineries sur 6 sont à l'arrêt. Chez Esso ExxonMobil, un premier round de discussion est également au programme de ce lundi. Cette pénurie qui ne dit pas son nom handicape également les professions dites prioritaires. Chauffeurs routiers, médecins, infirmières cherchent la parade. Chloé Lagadou.
Avec des réservoirs remplis au compte-gouttes, Bruno, ambulancier dans la Somme, est obligé de faire un tri dans sa patientèle. Il privilégie les rendez-vous quotidiens de chimiothérapie et de dialyse et refuse à contre-cœur les nouveaux patients.
Des patients qui appellent pour du transport assis à la dernière minute, malheureusement, à aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de refuser des transports. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir faire l'aller-retour sans être obligé de laisser un véhicule sanitaire sur le bord de la route.
Alors pour honorer le plus de rendez-vous possible, possible, Bruno optimise toute la place dans son ambulance.
Pour tout ce qui est le transport assis, nous avons le droit de prendre en charge 3 patients en même temps dans le véhicule. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au maximum afin de limiter les trajets à vide.
Du côté des soignants, on fait tout pour économiser l'essence. Les professionnels limitent leur trajet personnel, explique Sophie Bauer, secrétaire générale du syndicat des médecins libéraux.
Un grand nombre d'entre nous ont annulé leur week-end de façon à économiser le carburant. Le but, c'est de continuer à soigner nos patients.
En attendant un retour à la normale, les professionnels de santé espèrent la mise en place d'un dispositif qui leur permettra d'être prioritaires à la pompe.
Explication Chloé Lagadou.
48 heures après l'explosion du pont qui relie la Russie à la Crimée, Moscou tente de reprendre la main face à la dégradation de sa situation militaire.
Le Kremlin parle d'attaques terroristes et accuse Kiev d'en être l'auteur. La circulation a repris partiellement sur le pont, affront plus symbolique que stratégique, estiment les experts militaires. Mais depuis, Vladimir Poutine tente de reprendre la main. Nomination d'un nouveau chef d'état-major et réunion aujourd'hui d'un conseil de sécurité, Nicolas Tonev.
Oui, imaginez le programme sur la table devant Vladimir Poutine, ses principaux ministres, les représentants des armées, des services secrets, devant eux l'explosion du pont de Crimée, les reculs militaires en Ukraine, une mobilisation qui tourne au fiasco, un 8e changement de général sur le terrain de la guerre et une problématique pour eux, mettre fin aux diverses spirales de l'échec. Alors pour l'aspect militaire, reprendre le dessus rapidement semble illusoire. Les milliers de vieux missiles ressortis pour les bombardements massifs ne suffisent pas. Il faut donc trouver des tactiques ou des stratégies pour relancer la machine à gagner, cela sans faire usage de l'arme nucléaire qui ne semble pas dans les plans de Moscou. En ce qui concerne le pont, le terme terroriste employé par le chef du Kremlin est très important car il sort l'attaque du cadre guerrier acceptable quand il s'agit de terrorisme pour la Russie. Le coupable désigné, en l'espèce les services secrets ukrainiens, le coupable n'a littéralement plus de droit, il doit être détruit. Cela a été le cas pour les Tchétchènes avec de nombreuses exécutions extrajudiciaires, y compris à l'étranger. Le terme terrorisme signifie donc la possibilité de riposte à venir multiforme, prévisible et imprévisible.
Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie à Europe 1. Soulagement temporaire, mais soulagement tout de même à la centrale de Zaporijjia. L'installation a été reconnectée au réseau électrique, de quoi assurer le refroidissement des réacteurs.
Un premier test pour le gouvernement privé de majorité absolue à l'Assemblée. L'examen du projet de loi de finances 2023 débute aujourd'hui.
Mais les discussions s'annoncent déjà tendues. Le texte a été en partie détricoté en commission des lois avant d'être rétabli dans sa version initiale. Plus de 3300 amendements déposés. Les débats pourraient s'éterniser et pousser l'exécutif à recourir au 49-3. Les députés examineront d'abord le volet recettes, l'occasion de s'intéresser aux produits des PV payés chaque année par les automobilistes. C'est une véritable manne pour l'État, Barthélémy Philippe.
Oui, en 2023, les infractions au code de la route devraient rapporter 1,9 milliard d'euros à l'État, un chiffre qui augmente de 150 millions d'euros par rapport aux recettes prévues pour 2022. Le plus rentable pour l'État, ce sont les excès de vitesse. Hors majoration, il devrait rapporter plus de 750 millions d'euros en 2023. Il faut dire que le tarif des amendes pour excès de vitesse va de 70 à plus de 3 500 euros. Une partie de la recette des PV sert à acheter et entretenir les radars, mais aussi à financer la sécurité routière et à développer les transports en commun des collectivités locales. Le reste du magot contribue à désendetter l'État qui se versera près de 700 millions d'euros en 2023. Les radars sont omniprésents au bord des routes de France. On devrait en compter plus de 4500 à la fin de l'année. Mais rassurez-vous, l'État ne pourra bientôt plus en installer de nouveau car la loi fixe un plafond de 4700 radars.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Au chapitre transport, on l'a vu au début de ce journal, les automobilistes cherchent de l'essence. Les piétons franciliens, des bus ou des métros, pénurie de conducteurs et de machinistes et une augmentation annoncée du prix du Pass Navigo. Le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité doit en fixer le montant aujourd'hui.
La majorité remporte la législative partielle dans les Yvelines, Christophe.
Oui, réélection facile pour le ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot. Il obtient 72% des voix contre 28% pour la candidate de la NUPES. La gauche recule de 7 points par rapport à juin dernier et continue de se déchirer, notamment autour du cas Adria Quintenens. Jean-Luc Mélenchon réclame le retour de l'ex numéro 2 du parti à l'Assemblée, suspendu après avoir reconnu des violences conjugales. Ce n'est pas d'actualité, rétorque Clémentine Autain.
C'est la semaine du goût, il y a de quoi se faire plaisir. En tout cas, c'est l'occasion de vérifier comment les géants de la restauration collective s'adaptent au Nutri-Score.
Et vous avez déjà croisé ce logo sans doute sur l'emballage des aliments. 5 couleurs et 5 lettres de A à E en fonction de leur qualité nutritionnelle. Rien n'oblige les industriels à le faire, mais ils sont de plus en plus nombreux à s'y plier. Le Nutri-Score gagne même du terrain dans les cantines et les restaurants d'entreprise. Céline Géraud est allée voir dans les cuisines d'Elior comment le leader mondial du secteur s'adapte à cette nouvelle donne. Reportage.
décalé au milieu des fourneaux, entre la sauce tomate et les filets de bar qui mijotent, le geste est sûr et le timing serré. Pascal Kieruel est chef cuisinier sur le site d'Elior à La Défense. Chaque jour, il compose minutieusement les menus pour ce restaurant d'entreprise. Et depuis la mise en place du Nutri-Score, il ne cesse de modifier ses recettes.
Ça a été un problème où il a fallu qu'on fasse des tests pour arriver à point avec une recette au top, avec le goût attendu. Et là, on passe d'un Nutri-Score C ou D à A.
Remplacer l'huile par du fromage blanc dans la vinaigrette. Préférer la fleur de coco au sucre dans les desserts. Pour tenir la promesse d'une cuisine plus saine et plus vertueuse, le chef a aussi dû faire preuve d'imagination.
Certains desserts, notamment un gâteau au chocolat, on remplace le beurre par de la courgette. Ça fait le même effet, ça amène justement un petit plus au niveau du goût et ça remonte le Nutri-Score. Donc là, on a une bonne note.
Ce gâteau au chocolat courgette et d'autres produits allégés en sucre et en matière grasse figurent au menu de 500 cantines scolaires en France. L'objectif ? Modifier les habitudes alimentaires de ces jeunes consommateurs.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Le football, Laurent Blanc, nouvel entraîneur de Lyon. L'ancien coach du PSG de l'équipe de France a signé pour 2 saisons avec option pour 1 année supplémentaire. Enfin, Lille est sorti vainqueur du derby du Nord hier soir en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Victoire 1-0 des Lillois sur Lens.
Merci Christophe Lamarre. Vous êtes sur Europe 1. Très bon début de journée. 5h39. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre. C'est sur l'hippodrome d'Anguin que va se courir ce Quintet. 16 trotteurs âgé de 7 à 9 ans, réparti sur 2 poteaux différents de départ, 2875 et 2900 mètres. Idéalement placé à la limite du recul des 25 mètres, Flying Brickell, le numéro 6, sera sans hésitation mon préféré. Préparé depuis plusieurs semaines, avec minutie par son entraîneur Sébastien Ernaud, et ayant déjà bien réussi sur cette piste d'Anguin, il devrait pouvoir sans aucune difficulté justifier son statut de favori. On lui opposera les numéros 8, Faucon de l'Alba, lui aussi bien engagé en tête et qui possède à l'évidence une réelle chance jugée sur ce qu'il a réalisé de mieux. 15, Izzy Mazza, souvent vu à son avantage sur le parcours qui nous intéresse. Et 16, Fabulous Dream, certainement le plus doué de ce quintet, mais qui n'est vraiment pas de tout repos et avec lequel ce sera une nouvelle fois une question de sagesse. Enfin, les numéros 9, Fanatic Flash, 14, Foxtrot Noblesse, 10, Élan du Mouchel et 3, Edgar Toris compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 8, 15, 16, 9, 14, 10 et 3.
Et retrouvez tous ces pronostics sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Cet adversaire,
allô, Jacques Paris,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
C'est le jour où les grands faits historiques racontaient à travers les archives d'Europe 1.
Alors que s'ouvre la semaine du goût, on en parlait un instant, on va se replonger dans les chroniques d'une grande voix d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
Cette grande voix, c'est celle de Pierre Bonte qui a emmené pendant des années les auditeurs d'Europe 1 à la découverte des saveurs et des terroirs français.
Oui, pendant 15 ans, il a parcouru près de 4000 communes, sillonné la France entière. En décembre 1969, l'animateur de Bonjour Monsieur le Maire se trouve dans le Périgord à Thiviers où il parle de truffes.
Ici Pierre Bonte. À propos des truffes, signalons que pour les rechercher, l'on continue d'utiliser les truies. Et Monsieur le Maire, Monsieur Émile Combola, nous a appris qu'il existait pour ce faire des équipes spécialisées, tout comme en matière de déminage.
Ce sont des personnes qui ont une truie qui a été dressé spécialement et qui vont les chercher chez les gens, ce qu'ils leur demandent.
Tous les matins, des millions de Français se sont réveillés avec Europe 1 et la voix chaleureuse de Pierre Bonte. En 1965, il est à Piégut-Pluviers en Dordogne, où le champignon est roi, et le maire lui donne la recette du champignon farci.
Et il est farci avec quoi ?
Ben, il est farci avec du champignon haché, un peu de farine, du lard, de l'ail et certaines herbes que l'on trouve dans notre région, qu'on ne trouve pas ailleurs.
Mystère, mystère. Mais c'est vrai qu'avec les émissions de Pierre Bonte, les auditeurs découvraient de bonnes recettes locales aussi.
Pierre Bonte, dans ses émissions, transmet quelque chose de chaleureux également, de vrai. Et ça a marqué la radio de l'époque.
Ouais, il se permet toutes les libertés, comme pendant cette émission de 1961, où il énumère les rues d'Issoudun aux noms curieux.
Il y a la rue Percée, la rue du Bas-le-Temps, la rue des Champs d'Amour, la rue à chercher. Bref, cette petite ville de l'Indre possède sans doute la plus belle collection de noms de rues insolites.
En mai 65, Pierre Bonte est dans le Rhône, au pays du Beaujolais.
Un petit chameau, c'est un chamelet. Eh bien, chamelet, Le village du Beaujolais où nous sommes ce matin s'écrit de la même façon, C-H-A-M-E-L-E-T. Pourtant, s'il faut en croire monsieur le curé, l'origine du nom de la commune ne devrait rien à ce sobre animal. Dans le Beaujolais d'ailleurs, ça m'aurait étonné.
De l'humour, encore une fois, chez Pierre Bonte qui disait aussi qu'à ses yeux, le vrai sens du collectif, le vrai dévouement se trouvait dans les villages.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Et à demain, et merci à Pierre Bonte.
Truculent Pierre Bonte.
À demain pour un nouveau jour où sur Europe 1.
5h44 sur Europe 1, très bon réveil. Ils sont les rois de nos forêts. On ne se lasse pas de les admirer. À suivre, rencontre avec les arbres les plus remarquables de France. Les voici réunis dans un livre. Son auteur est un passionné. Georges Fetterman sera avec nous dans un instant sur Europe 1.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Bon réveil ce lundi 10 octobre. On s'avance dans l'automne et la forêt prend ses plus belles couleurs. Si vous cherchez des idées de balade, voici la solution toute trouvée. C'est un très beau livre qui vient de paraître. Les arbres les plus remarquables de France. Ce label leur est décerné par l'association Arbre. Votre invité Alexandre est l'auteur du livre, président de l'association. Georges Fetterman est agrégé de sciences de la vie et de la terre.
Bonjour Georges Fetterman.
Bonjour.
Alors d'abord, ce que vous nous dites avec ce livre, c'est que vous n'avez pas cantonné votre passion à la promenade digestive du dimanche. Vous êtes un véritable amoureux des arbres. Vous êtes leur ambassadeur à la tête de votre association Arbre. Votre livre, c'est une sélection de spécimens remarquables. Ils ont tous pris racine en France. Quels sont les critères de ce label ? Comment un arbre, à vos yeux, devient remarquable ?
Alors, les critères classiques, on s'en doute un petit peu, c'est l'âge des arbres assez vieux, les dimensions, les histoires qui vont avec ces arbres. Et puis moi, j'ajoute toujours, et je pense que chaque auditeur y sera sensible, la dimension du coup de cœur, de l'émotion, qui finalement est un critère incontournable et qui marche très bien.
Alors j'ai votre livre sous les yeux, remarquable hein, lui aussi, c'est un voyage à travers toutes les régions de France. À chaque page, sa découverte extraordinaire, on ne sait pas par où commencer. Je vois, tiens, il y a des séquoias en France, pas besoin d'aller en Californie, il y en a dans le Cher, il y en a dans l'Essonne, à Mency.
Oui, on propose d'aller voir des séquoias qui sont là depuis un siècle et demi sur notre continent, donc ils n'atteignent pas les dimensions des séquoias américains. Les gens qui les découvrent sont impressionnés parce que certains atteignent 8 à 10 mètres de circonférence. 150 ans, c'est pas les 3000 ans des séquoias californiens, mais oui. Ça impressionne. Il y a un très bel alignement, oui, en région parisienne. Mais dans beaucoup de régions de France, il y a des séquoias. Ils aiment bien l'humidité, la fraîcheur. Bon, la sécheresse qu'il y a eu leur convient pas trop, c'est sûr.
Voilà, alors ces arbres, souvent multicentenaires, ils sont plus sensibles justement à la sécheresse, au réchauffement climatique, Georges Fetterman.
Non, les très vieux arbres, ils ont un tel enracinement en profondeur, en grande profondeur, oui. Que à la limite, je dirais, ils sont presque un peu mieux armés que des arbres qu'on vient de planter. C'est pour ça que dans l'association, oui. On se bat beaucoup pour préserver des arbres comme ceux-là, parce qu'ils ont un potentiel de vie extraordinaire. Même un arbre qui a 1000 ans, il a encore des centaines d'années devant lui.
Alors le chapitre consacré justement aux ancêtres dans votre livre impose le respect, Georges Fetterman, l'un des plus vieux châtaigniers de France. On apprend qu'il est en Bretagne, largement millénaire. Il est dans le Finistère. Même chose, les oliviers de Monticello en Corse, millénaires eux aussi.
Oui, et puis n'oublions pas les vieux ifs qui sont moins connus du grand public, qui sont dans les cimetières de Normandie, assez faciles à trouver. Ce que j'aime bien avec un arbre comme le vieux châtaignier que vous évoquiez en Bretagne, c'est que sur le même arbre, vous avez des tissus végétaux qui ont plus de 1000 ans, et puis des jeunes pousses qui viennent de sortir. C'est-à-dire que ça, dans le monde animal et humain, ça n'existe pas. Se côtoient des tissus, des organes qui sont tout jeunes et puis d'autres qui sont extrêmement vieux. Ça, c'est propre à l'extraordinaire monde des arbres.
L'une des forêts les plus majestueuses en France, c'est la forêt de chênes de Troncet dans l'Allier, forêt cathédrale, c'est le cas de le dire, puisque certains chênes ont été sélectionnés pour reconstruire la charpente de Notre-Dame.
Oui, ça a été l'objet de grandes discussions dans notre association.
Et oui, j'imagine.
Oui, parce que à la fois on est partisan de préserver les vieux chênes et en même temps on n'est pas scandalisé que des chênes qui ont été plantés dans cette destinée d'être utilisés un jour par les hommes puissent être utilisés pour quelque chose d'aussi prestigieux que Notre-Dame. Mais c'est vrai que dans l'association, il y a eu débat sur un sujet comme celui-là, absolument.
Si on a envie de se plonger dans une ambiance à la Game of Thrones, George Vetterman, il y a toute une collection de hêtres, alors là, fabuleux, hein, aux formes torturées à découvrir. On ne va pas tous les citer, mais je pense au faux de Verzy dans la Marne, le hêtre de Kervigny dans les Côtes d'Armor. Ça aussi, c'est des très belles découvertes.
Ouais, je vois que vous avez bien exploré les pages du livre. Oui, avec un faible pour, vous avez parlé des faux de Verzy, qu'on appelle aussi les hêtres tortillards, qui sont des arbres extraordinaires. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que si des arbres comme ceux-là, tordus, tourmentés, sont toujours là, c'est qu'il y a eu à un moment ou à un autre une décision humaine de les conserver. Parce que je pense que sous l'ombrage de grands hêtres qui leur faisaient de l'ombre, peut-être n'auraient-ils pas survécu. Et on pense par exemple à Verzy, que ce sont des moines qui ont décidé un jour de conserver ces arbres tourmentés. Ils sont très étudiés par les généticiens d'ailleurs, ces arbres tordus. Parce qu'évidemment, ils sont le centre d'intérêt de la science pour leur forme étrange. Promenade facile à faire, hein, c'est tout près de Reims, en forêt, très facile à trouver. C'est pas difficile d'aller les voir.
Alors justement, vous mettez le doigt sur une question, Georges Vetterman. En amoureux de la nature, il y a forcément ce dilemme auquel on est confronté. Pour vivre vieux, ces arbres devraient-ils vivre cachés? On voit les risques du surtourisme. On voit que certains sites comme les Calanques de Marseille ont mis en place, par exemple, des restrictions d'accès. Je veux dire, montrer et localiser ces arbres, est-ce que ce n'est pas quelque part les menacer?
Je dirais, excellente question et toute neuve dans la vie de notre association Arbre. Il y a une dizaine d'années, faire connaître ces arbres, c'était les protéger. C'est-à-dire, c'est ce que je vous aurais répondu il y a quelques années.
Aujourd'hui, avant Instagram, par exemple.
Ouais, aujourd'hui, et puis les photos, les selfies, etc. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que pour aller 4 ou 5 des arbres les plus connus que nous mettons en valeur, ça peut poser problème et que ça impose de nouvelles obligations pour l'espèce humaine, c'est-à-dire créer des conditions pour que l'accès soit, qu'il y ait un panneau explicatif, des mesures de protection des racines pour pas que les arbres soient piétinés. Oui, votre question est tout à fait judicieuse. Depuis 2 ou 3 ans, on se rend compte que pour certains arbres, il faut ou les laisser ou ne pas en parler, ou bien surtout, parce qu'on peut aussi faire confiance aux gens, avoir un peu de pédagogie, expliquer que il vaut mieux rester à distance de l'arbre et non pas s'approcher, piétiner, comme c'est tentant de le faire. Dedans, laissons-les tranquilles aussi, admirons-les, photographions-les avec distance et respect. Voilà les mots qui me viennent.
Bon, on prend le temps et on lâche son smartphone si possible. Merci Georges Vetterman, vous venez de publier ce livre magnifique, hein, Les arbres les plus remarquables de France. Il faut absolument voir cet ouvrage, c'est à feuilleter en famille. Autant d'idées de sortie et de randonnée que d'arbres présentés, c'est chez Albin Michel. Merci à vous.
Merci.
Europe Matin. Nous sommes le lundi 10 octobre à 5h51, les titres Alban Le Prince.
La situation va s'améliorer tout au long de la semaine. La promesse d'Elisabeth Borne hier, alors que les automobilistes ont de plus en plus de mal à trouver du carburant, près de 60% des stations sont à sec dans les Hauts-de-France, 50% en région parisienne. Le prix des péages va augmenter le 1er février, confirmation de Clément Beaune. Hier, le ministre des Transports écarte en revanche une hausse de 7 ou 8%. Un accident de chasse hier dans la Drôme, un cueilleur de champignons a été touché par un tir. Son pronostic vital est engagé. Le chasseur a été placé en garde à vue. Et puis Laurent Blanc, nouvel entraîneur de l'OL. L'ancien sélectionneur des Bleus vient de signer un contrat de 2 ans à Lyon. Franck Passy devient son entraîneur adjoint.
Europe Matin.
Très bon lundi, 5h52. Merci de choisir Europe 1 pour commencer cette journée. C'est votre prescription culture.
On va retrouver Héloïse Goy pour son choix série du lundi.
Mais d'abord un peu de littérature avec Nicolas Carreau. Bonjour.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
Alors ce matin, Nicolas, vous nous parlez du nouveau roman de Tatiana de Ronet.
Nous irons mieux demain, c'est le titre, chez Robert Laffont, l'histoire de Candice. Candice Louradour, 28 ans, elle est séparée avec un enfant, elle travaille à Paris, elle est ingénieure du son. Son truc, c'est d'enregistrer des audiolivres. Elle marche un soir, le ciel est bas, l'ambiance un peu grise, vous voyez, et puis il y a un attroupement devant le passage piéton, vous savez, en attendant que ça passe au vert.
Ah oui, et comme souvent, ça déborde un peu sur la route.
Voilà, et ça ne manque pas. Candice est témoin d'un terrible accident. Une femme est renversée, puis projetée. Elle se retrouve à terre. Au passage, Tatiana de Ronet décrit très bien cette situation avec les gens qui s'agglutinent, mais qui ne font rien. Ceux qui filment, Burke, et ceux qui disent « mais appelez les pompiers !» au lieu de les appeler eux-mêmes directement. Candice, elle porte secours à la dame. Elle est grièvement blessée, la dame, mais sa seule obsession, c'est de retrouver ses boucles d'oreilles qui se sont décrochées pendant la chute. Candice cherche partout, les badauds aussi, et puis on les retrouve. Et la dame part avec les pompiers direction l'hôpital Cochin. Mais ça la travaille, Candice. Elle voudrait vraiment savoir si elle va bien. Je vous la fais courte, Candice la retrouve. Elle s'appelle Dominique Marquisan et malheureusement, elle a perdu sa jambe dans la bataille. Dur, dur.
Et c'est donc leur relation hein, que le roman décrit.
Ou pas seulement. Loin de là, Tatiana de Ronay lance sa toile dans tous les sens. Toutes les pistes s'ouvrent au début et elles trouveront toute une résolution. Mais pour l'instant, donc, Candice accompagne Dominique. Elle a visite de temps en temps. Et un jour, Dominique demande à Candice si elle ne pourrait pas aller au 66 rue Saint-Lazare, c'est chez elle, pour récupérer quelques affaires.
Là, vous êtes en train de nous donner l'adresse exacte, Nicolas ?
Oui, parce que ce n'est pas n'importe quelle adresse. Le 66 rue Saint-Lazare, c'est là où vivait la maîtresse de Zola, avec qui il a eu 2 enfants. Et à un moment, je lisais tranquille, et ce bout de papier est tombé du livre. Je me suis dit, tiens, Tatiana de Ronay m'a écrit un petit mot, c'est gentil, mais non. C'est un manuscrit, une copie de Zola, une petite lettre d'amour à sa maîtresse Jeanne. Et ce bout de papier a été retrouvé par Dominique chez elle à l'occasion de travaux. Donc on suit à la fois la relation entre Dominique et Candice, l'histoire de la vie et de la mort très étrange de Zola, et d'autres intrigues comme le 2e portable retrouvé dans les affaires du père disparu de Candice, et surtout de ce qu'elle y trouve. Mmh. Mais je m'arrête là.
Bon, et nous, on commence, nous irons mieux demain de Tatiana de Ronay. C'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. On s'installe maintenant devant notre télé. Le lundi, on vous retrouve, Héloïse Goy, pour votre conseil série. Bonjour.
Bonjour Alexandre, bonjour Ambline.
Bonjour Héloïse. Avec vous aujourd'hui, on va parler de hip-hop et de rap avec la série française qui a déjà remporté le Grand Prix au festival Série Mania.
Oui, Le Monde de Demain, c'est le titre de cette série très attendue qui mérite largement ce Grand Prix. Je vous préviens, je vais être dithyrambique. Les épisodes nous plongent dans les années 80 à Paris et en banlieue pour nous raconter une jeunesse qui danse le breakdance, qui graffe les murs de sa ville et qui rappe tout ce qu'elle a sur le cœur. Pour illustrer l'éclosion de cette culture rap en France, les cinéastes Catel Chiévéré et Élie Cisterne ne s'inspirent pas de n'importe qui. On suit notamment 2 jeunes copains de Saint-Denis dont les voix vous sont certainement devenues familières. Dans ta Benz, 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 gueule. Quand tu boites, ton bon passe avant d'un, 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 vous reconnaissez sûrement le groupe Suprême NTM avec la chanson Ma Benz. Alors tous les personnages et les histoires de cette série sont inspirés de témoignages de ceux qui se feront connaître sur la scène musicale, à savoir Didier et Bruno alias Joey Star et Cool Shen que vous venez d'entendre. On voit aussi le DJ Dynasty ou la graffeuse et danseuse Lady V. On accompagne ces adolescents dans leurs doutes, dans leurs déséquilibres familiaux, mais surtout on les suit dans leur désir de reconnaissance.
On a quoi nous ? Un pauvre terrain vague cradingue ? Un pauvre lino ?
Ouais, en fait on attend de se faire mater le cul par les riches quoi.
Et nos darons là, qui flippent qu'on galère toute notre vie comme eux.
Et même le pire c'est que des fois c'est eux qui te mettent dans la merde. Tu vois, moi mon père c'est lui qui à chaque fois que je vais à la maison me défonce pour un rien, tu vois.
Le projet maintenant, hein ?
Le projet ? C'est conquérir Paris mon pote.
C'est qu'on ne sait pas d'être prêt, c'est d'être là.
Dans cet extrait, on entend Didier et Bruno et les acteurs qui incarnent ceux qui deviendront Joey Star et Cool Shen. Ils s'appellent Melvin Boomer et Anthony Pajon, réalisent une prestation exceptionnelle. On a l'impression de voir les vrais à l'écran, de voir un documentaire. Le Monde de Demain, c'est une plongée nostalgique dans une époque où les coupes mulets sont de sortie et de toute beauté. C'est aussi une série musicale avec une belle BO. Alors que vous aimiez ou non le rap et le hip-hop, c'est passionnant de voir les racines d'un genre devenu majeur. Et puis enfin, Le Monde de Demain, c'est une série d'apprentissage sur des adolescents attachants, prêts à tous les efforts pour briser le plafond de verre. C'est émouvant, c'est fin, c'est poétique. L'une des meilleures séries françaises de la rentrée pour moi.
Le Monde de Demain. Donc, les 6 épisodes arrivent aujourd'hui sur Arte.tv. C'est gratuit. La série sera diffusée sur Arte, la chaîne, hein, à partir du 20 octobre, à partir également de 20h55. Merci beaucoup, Héloïse Goy. Dans 3 minutes, un peu moins, il sera 6h. La météo à suivre, le journal de Romain Oquet. Et à 6h40, ne manquez pas l'interview Éco, Alexandre.
Oui, on va parler de votre santé au travail, santé psychologique, hein, puisque c'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé mentale. Je recevrai Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC. On va se pencher avec lui sur la santé des cadres et au-delà de tous les salariés en entreprise.
Avant ça, retrouvez la revue de presse décalée, le Pressing, à 6h10.
On a aussi rendez-vous avec votre partition, Ombline.
Elle était chanteuse, il était boxeur et c'est à New York qu'il se sont rencontrés. Edith Piaf et Marcel Cerdan dans la partition dans 20 minutes.
Le journal de 6h sur Europe 1.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Que fait l'État ? L'exaspération des automobilistes face à la crise des carburants. La CGT tranche aujourd'hui sur la suite de la mobilisation. Un tiers des stations-service est à sec ce matin. Un premier test pour l'exécutif. Le projet de loi de finances arrive à l'Assemblée nationale. Face aux oppositions, la bataille sera rude. Pourquoi ? Que contient exactement ce projet de loi ? Éclairage à suivre. Et puis un chiffre effarant. Plus de 40 000 enfants n'ont pas de domicile en France. Une vie dans la rue avec des conséquences sur la santé mentale de ces petits. Le journal de 6 heures présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Stop ou encore ? La CGT se prononce aujourd'hui sur la grève dans les raffineries Total. La direction a tendu la main aux syndicats hier, d'accord pour avancer les négociations salariales dès ce mois-ci, à une condition, la fin des blocages.
Des blocages qui s'éternisent. Près d'une station service sur trois est à sec en France.
Oui, c'est même la moitié des pompes dans les Hauts-de-France et en région parisienne. Un week-end de galère pour les automobilistes de ces territoires. Le défi, trouver du carburant avant le retour au travail. Ce matin, dans les files d'attente, une question revient en boucle. Que fait le gouvernement ?
Là maintenant, arrivé à ce stade, il faudrait que l'État réagisse, oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait des réserves, donc peut-être mettre les réserves un peu plus à la disposition des usagers, parce que le gouvernement, eux, ils ne sont pas confrontés à ce que nous vivons tous les jours.
La réaction est peut-être un petit peu tardive. Ils ont laissé les camions pouvoir rouler ce week-end, mais je n'en ai pas eu beaucoup. Donc il aurait dû y avoir des stations qui auraient dû avoir le plein de carburant, et ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est vrai qu'en termes de réactivité, c'est un peu long.
Là, on a envie de vivre, on a envie de rouler, et on a surtout envie qu'on nous lâche un peu. On est en France, on n'est pas dans le tiers-monde, dans un pays très en avance technologiquement. Je ne sais pas où ils veulent nous mener, mais en tout cas, moi, ils ne me mèneront pas par le bout du nez.
Un témoignage recueilli par Thibaut Hue pour Europe 1. Hier, la première ministre a promis des améliorations tout au long de la semaine grâce aux livraisons de stocks stratégiques. Une annonce depuis l'Algérie où Elisabeth Borne est en visite depuis hier aux côtés de 15 ministres.
L'exécutif qui se prépare à une bataille corsée sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Oui, le budget 2023 arrive aujourd'hui dans l'hémicycle. Un projet de loi de finances décrié par l'opposition. Plus de 3500 amendements déposés avec la menace en plus du 49.3, article qui permet une adoption du texte sans vote du Parlement. Baptiste Morin, quelles sont les grandes lignes du budget ?
Il faut d'abord retenir la croissance estimée. 1% en 2023, c'est là-dessus que repose le budget. Le chiffre est contesté par plusieurs instituts, dont l'OCDE qui tape plutôt sur une croissance de 0,6%. Mais le gouvernement se veut confiant. La mesure phare de ce projet de loi de finances, c'est le bouclier tarifaire. 45 milliards d'euros pour contenir à 15% la hausse du prix du gaz et de l'électricité et protéger le pouvoir d'achat des Français. Ce projet de loi de finances 2023 prévoit aussi la création de 10 764 postes de fonctionnaires, très exactement. La plus grande partie pour le ministère de l'Intérieur, mais la justice et les armées vont aussi en profiter. Et puis il y a un volet important pour l'emploi et les entreprises. 3,5 milliards d'euros pour l'apprentissage, 84 millions d'euros pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée. Et puis la suppression d'une première moitié de la CVAE, un impôt de production, 4 milliards d'euros de fiscalité en moins pour les entreprises.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. 6h03, c'est un accident dont vous vous rappelez sûrement, le crash du Rio Paris le 1er juin 2009, le plus meurtrier de l'histoire d'Air France, 228 victimes dont 73 Français. Le procès en correctionnel s'ouvre aujourd'hui.
Airbus et Air France poursuivis pour homicide involontaire. Les boîtes noires ont révélé que les pilotes avaient été désorientés par le gel des sondes pitot placées à l'avant de l'appareil.
Pourquoi la question hante désormais Danielle Lamy depuis 13 ans, depuis qu'elle a perdu son fils dans le crash. Elle est devenue présidente de l'association Entraide et Solidarité AF447.
Ce que l'on attend, c'est déjà les réponses à des questions qui nous obsèdent. La première question, c'est pourquoi l'accident n'a pas été évité alors que finalement la dangerosité des sondes pitot était connue. La deuxième question qui nous obsède, c'est pourquoi Airbus a attendu que l'accident ait lieu pour imposer le changement de ses sondes et pourquoi Air France n'a pas non plus décidé de changer les sondes alors que XL Airways et Air Caraïbes les avaient changées en 2008 et qu'après les deux incidents graves, Air Caraïbes n'a plus rencontré d'incident. On sait qu'Airbus souhaite que ce soit le procès des pilotes, mais les pilotes sont des victimes, exactement au même titre que le reste de l'équipage et les passagers. Nous sommes absolument déterminés à ce que cet accident serve d'exemple pour que cela ne se reproduise pas, c'est-à-dire imposer qu'effectivement la sécurité aérienne soit la préoccupation principale à la fois du constructeur, mais également des compagnies aériennes.
Danielle Lamy, présidente de l'association Entraide et Solidarité AF447, elle répondait à Louise Douillet pour Europe 1. 6h04, enfants et sans-abri, deux mots qui paraissent tout simplement inconciliables. Et pourtant, c'est le cas de 42 000 mineurs en France, chiffre d'un rapport de l'UNICEF et du SAMU social publié aujourd'hui.
Des enfants qui vont d'hébergement d'urgence en abri de fortune, une précarité qui a naturellement des conséquences sur leur santé mentale. Vivre sans avoir une chambre, un chez-soi, cela pèse sur les liens familiaux, Yasmina Katou.
Des familles de 3, 4, voire 5 personnes dans des chambres d'hôtel de 15 mètres carrés. Une enfance rythmée par le passage d'un hébergement d'urgence à l'autre. La promiscuité, les problèmes de scolarisation perturbent les enfants, décrit Vanessa Benoît, directrice du SAMU social.
La première chose qui est très anxiogène pour les enfants, c'est de changer régulièrement de lieu. La deuxième chose, c'est de voir que leurs parents sont inquiets ou tristes. Quand on est enfant, on ne sait pas gérer la souffrance de ses parents. Et les enfants y sont confrontés en permanence. Mais c'est très contraignant pour un enfant.
Les familles vivent en moyenne 2 ans et demi à l'hôtel dans des espaces qui ne sont pas pensés pour les enfants. Une vie chahutée, morcelée qui peut durer 10 ans dans certains cas. Adeline Azan, présidente d'UNICEF France, plaide pour des solutions pérennes.
Garantir un accueil absolument inconditionnel des familles avec enfants dans des structures qui sont adaptées. D'avoir une politique de construction, de mise à disposition de logements abordables pour des familles.
L'offre de soins est aussi pointée du doigt par l'UNICEF. La France compte à peine 2000 pédopsychiatres. C'est un tiers de moins qu'il y a 20 ans.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.
6h06, votre actualité sportive sur Europe 1. En Formule 1, Max Verstappen s'assoit à nouveau sur le trône de champion du monde.
Oui, le deuxième sacre de sa carrière grâce à une victoire au Japon. Hier, une course rocambolesque, on peut le dire. D'abord la plus battante, qui a interrompu la compétition pendant près de 2 heures. Ajoutez à cela un camion-grue sur la piste. Bref, une cacophonie qui n'enlève rien tout de même au mérite de Verstappen. Christopher Füllhoch, le néerlandais de 25 ans, a tout simplement dominé la saison.
Oui, c'est ça. Le pilote Red Bull n'a laissé aucune chance à la concurrence. La lutte acharnée avec Lewis Hamilton l'an passé n'a rien enlevé de son appétit de victoire. Au contraire, elle l'a même décuplé. Porté par une monoplace qui s'est perfectionnée au fil de la saison, le néerlandais a su saisir les opportunités. On le savait déjà, compétiteur. Et on a découvert cette année un Max Verstappen chirurgical. Pour lui, la victoire n'est pas simplement un objectif, mais une conclusion logique.
Ouais, c'est assez spécial, bien sûr, de le gagner ici. C'était le scénario parfait pour nous et on l'a fait, mais je suis très heureux. La voiture était à nouveau en feu et nous n'avions aucun problème aujourd'hui. En regardant la saison que nous avons eue jusqu'à présent, cela a été vraiment impressionnant et je vais vraiment profiter du moment.
Voilà désormais un Max Verstappen qui entre dans le top 6 des pilotes les plus victorieux en Formule 1 avec 32 victoires à égalité avec Fernando Alonso. Il se trouve maintenant sur le chemin pour s'inviter à la table des grandes et Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Alain Prost ou encore Ayrton Senna. Des noms admis comme des légendes de ce sport.
Christopher Füllhoch.
Du football également avec un nouvel entraîneur pour l'Olympique Lyonnais.
Oui, il s'appelle Laurent Blanc et il remplace Peter Bosz, limogé après le match nul contre Toulouse vendredi soir. Décision saluée par Olivier Létang. Il était directeur sportif du PSG à l'époque où Laurent Blanc entraînait le club.
Je suis content pour Laurent. On a travaillé ensemble et c'est quelqu'un de très bien. Ça a été long pour lui d'attendre 6 ans finalement avant de pouvoir réentraîner en France. Voilà, donc je suis très content pour Laurent, il le mérite. Bon vent à lui avec Lyon maintenant, à nous encore une fois d'être performants. On va les recevoir dans peu de temps. Ce sera un plaisir de le revoir, mais encore une fois, ce soir-là, ce sera l'objectif de prendre les 3 points pour nous.
Et le président de Lille au micro de Sébastien Bouet, correspondant sport d'Europe 1, Olivier Létang, qui a d'ailleurs le sourire après le derby du Nord. Le LOSC l'a emporté hier soir face à Lens, fin d'une belle série pour les 100 et or, qui cumulait 17 rencontres sans défaite en championnat. Les Lillois, eux, remontent à la 7e place.
Et 2 autres derbies hier soir, Roman.
Oui, en Bretagne, Rennes a écrasé Nantes 3-0. 2 buts aussi pour Lorient, qui jouait contre Brest. Une victoire qui permet au club de monter sur la 2e marche du podium de Ligue 1.
C'était le journal des sports avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romain Hoquet.
Il est 6h09 et vous restez avec nous dans un instant le pressing.
Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
Et oui, Un début de journée bien informé et avec le sourire. 6h11, bon réveil sur Europe 1.
Et si vous arrivez, vous êtes pile à l'heure pour le pressing et pour passer en revue les journaux du matin. On est rejoint par Dimitri Vernet. Quel article avez-vous repéré, Dimitri ?
Eh bien, c'est un article dans le journal L'Équipe qui m'a interpellé ce matin. Un article qui revient sur une grosse polémique survenue sur les réseaux sociaux hier. Le faux coming out du célèbre joueur de foot Iker Casillas. Alors, Iker Casillas, je ne sais pas si ça vous parle, Omblin, Alexandre.
Non, personnellement, pas trop.
Pas tant, plus que ça.
Alors, pour vous et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Iker Casillas est un ancien gardien de légende du foot espagnol, passé notamment par le célèbre club du Real Madrid. Et hier, en fin de matinée, il poste un tweet, je vous le lis. « J'espère que vous allez me respecter, je suis gay ». Alors à ce moment-là, tout le monde pense à un coming out classique. Dans les minutes qui ont suivi cette annonce, il y a d'ailleurs eu énormément de réactions, notamment celle de son ancien coéquipier espagnol Carles Puyol, lui répondant « Il est temps de raconter notre histoire ». Mais vous allez voir finalement eh bien que l'histoire prend un tout autre tournant, puisqu'à peine une heure après, le tweet est supprimé et le joueur espagnol Iker Casillas explique qu'il se serait fait hacker et que donc quelqu'un d'autre aurait écrit ce message à sa place. Mais selon les journaux espagnols, cette explication est fausse. Le tweet aurait bien été posté par le joueur de manière ironique afin de balayer les rumeurs l'associant à de nombreuses femmes. Une blague de très mauvais goût quand on sait l'homophobie ambiante en plus dans le monde du foot, comme en témoigne d'ailleurs cette réaction de Josh Cavallo, un des rares joueurs de foot ayant fait un coming out. De la part de mes modèles et des légendes du football, plaisanter d'un coming out et de ma communauté va au-delà du manque de respect. Alors Iker Casillas n'a toujours pas confirmé que ce tweet venait bien de lui, mais il s'est excusé au nom de la communauté LGBTQ+. Mais qui que ce soit l'auteur de ce message, il aurait mieux fait de s'abstenir. Le faux coming out d'Iker Casillas, c'est à lire dans les colonnes du journal L'Équipe ce matin.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Incroyable.
Ça se passe de commentaires. Merci Dimitri. Votre sélection, Omblin.
Alors si vous vous êtes promené en forêt ce week-end sous un soleil d'automne, c'est plutôt agréable. Vous vous êtes sans doute arrêté au bout de quelques pas pour admirer les couleurs chaudes des arbres, un camélia de rouge, un dégradé d'orange, un vrai bonheur pour les enfants qui ramassent les feuilles. Et faire un joli bouquet de saison à la maison. Tous les enfants de France, peut-être, mais pas dans le Morvan. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que dans cette région de Bourgogne, les forêts, en cette mi-octobre, restent inexorablement teintées de vert. C'est un fait rarissime du jamais vu pour un technicien de l'ONF, l'Office National des Forêts. Pour les Morvandiaux aussi, ce sont les habitants du Morvan. Si les jeunes arbres et les châtaigniers sont doucement en train de se déshabiller pour l'hiver, eh bien les chênes et les autres feuillus sont aussi verts qu'au printemps, et ce jusqu'au sommet du mont Beuvray. C'est à 700 mètres d'altitude.
Donc encore là à la mi-octobre.
C'est encore, pas encore l'automne. Il y a quelques explications pour cela, selon un pépiniériste interrogé par Le Quotidien. Après un été très sec, il a plu pas mal, particulièrement en Bourgogne. Le massif du Morvan a connu de gros épisodes de précipitations, et les pluies au cœur de l'été ont permis également aux arbres de résister lorsqu'ensuite il faisait très chaud. Et puis, le début de l'automne est plutôt doux dans la région, en tout cas pas de grand froid ni d'importantes gelées le matin. Même constat d'ailleurs dans les vignes du côté de Chalon et du côté de Beaune, qui prennent leur temps pour virer à l'orange. Exactement, Chalon-sur-Saône. Les vignes, les arbres n'ont pas senti la saison commencer. Se croit encore en été. Pour fabriquer votre herbier automnal, il faudra donc attendre la fin du mois d'octobre, a priori, voire début novembre, ce qui est extraordinairement tard. La question que tout le monde se pose, est-ce que chaque année désormais, l'automne mettra du temps à s'installer dans le Morvan ou ailleurs ? C'est dans le Parisien aujourd'hui en France.
Les saisons détraquées dans le Morvan.
Voilà, c'est ça.
Mais ça va surtout tout décaler.
Décale tout. On verra en tout cas les années suivantes si ça reste ainsi. On termine ce tour de piste par vous, Alexandre.
Ben oui, avec une question, tiens. Est-ce qu'il faut s'habiller comme un pro pour faire du sport ?
Un minimum s'équiper, peut-être.
Déjà, vous faites peut-être pas de sport.
Un petit peu, légèrement.
Un petit peu, voilà. Les chaussures, quoi.
Cette question-là,
parce qu'en bottine, c'est pas pratique. Oui.
C'est une question qui est posée dans le Figaro. Alors, on suit dans le Figaro les interrogations de Bertrand, 45 ans. Bertrand, il est un peu comme nous tous. Il voit bien la baisse des températures. Il voit bien que les jours raccourcissent. Alors, il se dit, pourquoi quand même attendre Nouvel An pour prendre des bonnes résolutions ?
Ah oui.
Pourquoi enchaîner les fondus ? Pourquoi s'enfiler des poignées de bonbons pour Halloween qui approche ?
Il peut le faire, mais... Voilà,
c'est ça. Mais alors Bertrand, il s'accroche à sa pratique du running. La course à pied, oui. Faut-il y mettre le prix, comme pour sceller son engagement ? Est-ce qu'il faut acheter la dernière paire de chaussures high-tech ? Et voici soudain, dans le Figaro toujours, cette image obsédante de cet homme croisé au bois de Vincennes, la soixantaine. Ah oui. On l'a vu courir l'autre jour, sans une once d'essoufflement, vêtu d'un simple jean, d'une chemisette et d'une paire de baskets bien fatiguées. Comme quoi, pas besoin d'être sapé comme Usain Bolt pour faire de toute façon bien moins que Usain Bolt. Oui. Alors oui, les équipements sportifs ont progressé, nous dit le Figaro. Évacuation de la transpiration, séchage rapide, semelles comme montées sur des ressorts, vous savez. À vélo même, hein, et sans y mettre une fortune, on sera toujours mieux en cuissard, c'est vrai, qu'en pantalon bouffant. Oui. Mais l'équipement sportif, ça va quand même plus loin que la simple recherche du confort ou de la performance, nous dit le Figaro. Et ça, les enseignes de sport l'ont bien compris pour nous faire passer à la caisse. Hein, vous savez, s'équiper, c'est se faire plaisir. Et oui, c'est se donner le sentiment qu'on se met au sport sans se forcer. Et une fois sur le terrain d'opération, votre tenue, elle vous apportera aussi la reconnaissance de vos paires.
Ah, on se reconnaît ?
De vos paires de chaussures. Ouais. Il reste que, aussi coûteuse qu'elle soit, votre tenue ne vous gardera pas du teint rougeau et du souffle court. Là, c'est à vous de faire le reste. Ou, deuxième solution, d'attendre 2023.
Ah, pour faire les bonnes résolutions.
L'année prochaine.
D'accord. Bon, non, on va aller courir dès cet après-midi. Peut-être faire du vélo.
Allez.
Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Dimitri. C'était le pressing. On se retrouve dans un instant avec la partition d'Edith Piaf.
Votre partition, Omblin, à 6h31, il y a bientôt 60 ans qu'elle nous a quittés. Tiens, 59 ans exactement, c'était dans la nuit du 10 au 11 octobre 1963. La môme Edith Piaf.
Usée par des excès d'alcool et de médicaments, elle avait 47 ans. 16 ans plus tôt, Edith Piaf fait sans doute la rencontre la plus importante de sa vie, l'histoire la plus controversée et la plus commentée aussi, celle avec le boxeur français Marcel Cerdan.
Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon.
La première fois qu'ils se croisent tous les deux, ça se passe à Paris. C'est au Club des Cinq, en 1946.
Le Club des Cinq est un cabaret du Faubourg Montmartre avec du velours jusqu'au plafond et où l'ambiance est joyeuse et enfumée. Edith Piaf n'est pas indifférente au charme du séduisant boxeur, mais il est un boxeur marié et père de famille.
Et à partir de là, ils ne vont plus se croiser pendant un an.
Et au milieu de l'automne 1947, à New York, convié à une garden party dans un petit restaurant français, le maître d'hôtel guide Edith Piaf jusqu'à la table de Marcel Cerdan. Un heureux hasard, lui s'entraîne en vue d'un prochain combat. Elle se produit au Playhouse Theater en plein cœur de Broadway. C'est sa première rencontre avec le public américain. J'ai le trac, dit-elle, je voudrais bien toucher leur cœur.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rond.
Et voici que le déjeuner se transforme en dîner.
Oui, ils se retrouvent le soir même. C'est la naissance d'une passion dévorante et pour la première fois, Edith Piaf fréquente un homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister. Ils sont, si vous voulez, sur un pied d'égalité. Sauf que Marcel Cerdan est toujours marié. Et pour rien au monde, il ne veut abandonner sa famille. C'est donc une idylle qui, très vite, va s'étaler à la une de tous les journaux.
Janvier 1948, on est devant tout le Gotha américain. Edith Piaf triomphe dans une autre salle de New York, elle s'appelle le Versailles.
Oui, Marcel Cerdan est présent et lui va l'inviter à son prochain combat. C'est ensemble qu'il rentre à Paris auprès de son amant. La chanteuse s'assagit et trouve un rythme de vie plus mesuré. Elle tricote pendant qu'il lit des BD, elle travaille sa musique. Lui, c'est crochet du gauche.
Edith Piaf, oui. Edith Piaf au côté de Marcel Cerdan hein, lorsqu'il devient justement champion du monde en 1948.
Combat remporté contre Tony Zell. Si leur vie à deux se poursuit en France, c'est à nouveau un tour de chant aux États-Unis qui attend Edith Piaf. Un an plus tard, elle est de retour à New York pendant que Marcel Cerdan est lui resté à Paris. C'est à la demande de la chanteuse qu'il monte dans un avion pour la rejoindre le 27 octobre 1949. L'avion n'arrivera jamais. Elle vient de perdre celui qu'elle considère comme le plus grand amour de sa vie. Bien qu'anéantie, Edith Piaf décide de monter sur scène le soir même pour rendre un dernier hommage à son Marcel.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Le matin, que l'amour inondera mes matins, tant
que mon corps frémira sous tes mains. De ma porte, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
La chanson qu'elle a écrite pour son amant Marcel Cerdan sur une musique de Marguerite Monod, cet hymne à l'amour, Édith Piaf l'interprète la première fois le 14 septembre 1949 au cabaret Versailles à New York, donc un petit peu plus d'un mois avant le crash de l'avion du champion de boxe. Elle l'enregistrera le 2-1950 sans changer les paroles. Si un jour la vie t'arrache à moi ou si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Merci Ambline, 6h26, très bon réveil avec nous sur Europe 1. Après le journal de Fanny Marceau, rendez-vous avec l'Interview Écho. Je recevrai Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC, Association pour l'emploi des cadres. On va parler ensemble de votre santé au travail, santé psychologique. C'est aujourd'hui, ce lundi, la journée mondiale de la santé mentale.
Avant 7h, la revue de presse internationale et l'innovation avec Anissa Mbida.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Total Energy prêt à négocier si les blocages cessent. Pas encore de réponse de la CGT. En attendant, c'est toujours la galère à la pompe ce matin. Un tiers des stations ne font pas le plein. Europe 1 au plus près des automobilistes. Nous serons dans les Vosges dans un instant. Début du bras de fer aujourd'hui sur le projet de loi de finances 2023. Examen à l'Assemblée. Face à la crise, chaque centime compte. Coup de projecteur dans ce journal sur les PV de stationnement et de circulation qui rapportent beaucoup d'argent à l'État. Du gâteau chocolat ou courgettes pour remplacer le beurre. C'est parti pour la semaine du goût. De nombreuses animations pour apprendre aux plus jeunes à bien manger. Reportage dans ce journal chez l'un des leaders de la restauration collective qui révolutionne ses recettes.
Europe 1.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre. Dites, comment vous êtes venu travailler ce matin ?
Ah, alors je suis venu en taxi, parce qu'à l'heure où j'arrive, il n'y a pas de transport.
Bon, un taxi qui avait trouvé de l'essence. C'est déjà une chance. C'est pas le cas, en revanche, pour des milliers de Français proches de la panne sèche et qui se posent la question ce matin. Comment aller travailler ? Comment emmener nos enfants à l'école sans carburant ? Un tiers des stations-service à sec ce matin. Certaines n'ont plus qu'une ou deux pompes alimentées. Bonjour Tatiana Geiselman.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, en direct d'une station-service de Saint-Dié-des-Vosges où le manque de carburant se fait aussi sentir. Vous avez rencontré des automobilistes qui veulent à tout prix éviter de se retrouver sur la réserve ou carrément à l'arrêt.
Oui, tout à fait. En fait, ce matin, j'ai fait le tour des stations-service comme tous les automobilistes. Il y en a 4 en tout à Saint-Dié-des-Vosges. Et sur 2 d'entre elles, du rubalise a été tiré sur les pompes pour indiquer qu'il n'y a plus du tout de carburant. Là, je me trouve dans la seule station où il reste du diesel, au grand soulagement de Patricia.
Ça fait une semaine que je cours après du diesel un peu partout. C'est la vraie galère parce que toutes les stations du coin sont à sec.
Voilà, comme elle, de nombreux automobilistes roulent au diesel ici. On est dans un département assez rural où beaucoup de monde utilise sa voiture tous les jours. C'est aussi le cas de Philippe qui s'est lui aussi levé assez tôt ce matin pour faire le plein.
Là, je vais sur Metz et là, vous voyez, moi, j'avais les 3/4 de plein. Je viens de mettre 14 litres parce que je ne sais pas à quoi m'attendre en Moselle. Je ne sais pas s'il y aura du gasoil, donc je préfère partir le réservoir plein.
Alors pour l'instant, ce n'est pas encore la cohue ici, il n'y a pas de queue à rallonge, mais les voitures s'enchaînent tout de même, malgré l'heure très matinale.
Merci Tatiana Geiselman, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Alors les Vosges, bientôt à sec, on vient de l'entendre, et ce n'est pas la seule région touchée. Hein. Prenons la carte de France avec vous Aurélien, quels sont les territoires les plus proches de la panne ce matin ?
Eh bien la situation s'est détériorée en cours de week-end dans plusieurs régions, notamment les Hauts-de-France, où le pourcentage de stations en rupture d'au moins un carburant carburant est passé de 40 à 60% selon les derniers chiffres du ministère de la Transition énergétique. La moyenne nationale est autour de 30%, mais c'est également de plus en plus difficile en Île-de-France, où désormais près d'une station sur deux rencontre des difficultés d'approvisionnement. Station fermée dans la majorité des cas. Cela se complique aussi dans la région lyonnaise. Alors les mesures prises par le gouvernement, notamment l'ouverture de dépôts de carburant habituellement fermés le week-end ou l'augmentation des importations, auraient permis d'augmenter les livraisons de 20%. Les premiers effets devraient être visibles dès aujourd'hui.
Aurélien, les Français perdent patience devant ces pénuries. Est-ce qu'on voit le bout de cette grève des raffineurs?
Alors les positions semblent se rapprocher chez Total Energy. La direction a accepté d'avancer les négociations annuelles dès ce mois d'octobre. La CGT répondra dans la journée après consultation des grévistes, mais même si les négociations débutent rapidement, les positions restent éloignées. Le syndicat demande 10% d'augmentation, prenant en compte l'inflation et les très bons résultats de Total cette année, avec effet rétroactif sur toute l'année 2022. La direction semble globalement d'accord sur le niveau d'augmentation. Nos salariés ne perdront pas en pouvoir d'achat, me disait-on en interne ce week-end. Mais en revanche, ce serait pour les salaires de 2023. En tout cas, si les blocages sont levés pour une raffinerie comme celle de Normandie, qui est totalement à l'arrêt, il faut compter une semaine avant un retour à la normale.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Hier, la première ministre Elisabeth Borne en déplacement en Algérie a assuré pour sa part que la situation allait, je cite, « s'améliorer tout au long de la semaine avec notamment les livraisons issues des stocks stratégiques ».
Un bras de fer en vue à l'Assemblée nationale. La majorité va devoir batailler ferme si elle veut faire passer son projet de loi de finances.
Eh oui, l'examen commence cet après-midi. Toutes les oppositions ont déjà prévu de voter contre et pas moins de 3339 amendements ont été déposés. Le gouvernement envisage sérieusement d'avoir recours à l'article 49.3 pour faire adopter le texte sans passer par le vote.
Dans ce projet de loi, 45 milliards d'euros de bouclier tarifaire, 3,5 milliards d'euros pour l'apprentissage, près de 11 000 créations de postes de fonctionnaires, beaucoup de dépenses qu'il va bien falloir financer.
Et pour ça, l'exécutif compte notamment sur nos impôts, bien sûr, et sur une autre recette que nous sommes nombreux à payer, les amendes. Le produit de nos PV de circulation est un véritable butin pour l'État, Barthélémy Philippe.
Oui, en 2023, les infractions au code de la route devraient rapporter 1,9 milliard d'euros à l'État, un chiffre qui augmente de 150 millions d'euros par rapport aux recettes prévues pour 2022. Le plus rentable pour l'État, ce sont les excès de vitesse. Hors majoration, il devrait rapporter plus de 750 millions d'euros en 2023. Il faut dire que le tarif des amendes pour excès de vitesse va de 70 à plus de 3 500 euros. Une partie de la recette des PV sert à acheter et entretenir les radars, mais aussi à financer la sécurité routière et à développer les transports en commun des collectivités locales. Le reste du magot contribue à désendetter l'État qui se versera près de 700 millions d'euros en 2023. Les radars sont omniprésents au bord des routes de France. On devrait en compter plus de 4500 à la fin de l'année. Mais rassurez-vous, l'État ne pourra bientôt plus en installer de nouveau car la loi fixe un plafond de 4700 radars.
Barthélémy Philippe.
6h36 sur Europe 1. 228 morts, dont 73 Français, début aujourd'hui du difficile procès du crash du vol Rio-Paris.
C'était il y a 13 ans, le 1er juin 2009. Des sondes placées sous l'avion avaient gelé en vol, perturbant tout le fonctionnement de l'appareil qui avait plongé dans l'Atlantique. La compagnie Air France et le constructeur Airbus sont poursuivis pour homicide involontaire. Après des années d'enquête et d'expertise, les familles des victimes espèrent enfin obtenir des réponses. Sylvie Delerablet a perdu son époux dans l'accident. Elle attend fébrilement ce procès.
Ce que j'attends, c'est que l'accident soit expliqué clairement, pourquoi les pilotes n'ont pas su interpréter toutes les alarmes qui ont défilé devant eux et ce genre d'explication dont moi j'ai besoin. Ils risquent de nous faire réentendre les pilotes qui parlent dans le cockpit au moment du crash. Forcément, ça va faire revivre des choses. Je ne viendrai pas aux périodes où ils parlent de l'identification des corps. Les témoignages, je ne sais pas. Je pense aussi que ça va me bouleverser. Après, est-ce que c'est pas une étape un petit peu obligatoire pour justement passer après à autre chose? Je me suis fait mon scénario. Il est raisonnable dans le sens où il est simple. Maintenant, voilà.
Sylvie Delerablet, joint par David Montagnier. Le procès du crash du Rio-Paris doit durer jusqu'au 8 décembre prochain.
Dans l'actualité internationale, un conseil de sécurité sous haute tension, aujourd'hui à Moscou.
Vladimir Poutine convoque ses principaux ministres et responsables de l'armée russe. Réunion qui se tient régulièrement, mais qui pourrait être particulièrement tendue aujourd'hui après les derniers revers de l'armée russe et l'attaque du pont de Crimée ce week-end. Un acte terroriste pour le maître du Kremlin qui accuse les services de renseignements ukrainiens.
La semaine du goût s'ouvre aujourd'hui. Fanny, sel, poivre, ail, oignon, on a tous nos petits secrets hein, mm-hmm. pour faire danser les papilles, mais il faut surtout réussir à manger sain.
Et équilibré, c'est tout le défi des restaurants collectifs. Depuis 2019, ils essaient d'avoir le meilleur Nutri-Score possible, c'est-à-dire, bah, comme sur les emballages au supermarché, la meilleure qualité nutritionnelle, plus près du A vert que du E rouge. Et pour ça, les chefs des cantines n'hésitent pas à revoir leurs recettes. Reportage dans les cuisines d'Elior, le leader mondial de la restauration collective. Céline Géraud.
Bien calé au milieu des fourneaux, entre la sauce tomate et les filets de bar qui mijotent, le geste est sûr et le timing serré. Pascal Kieruel est chef cuisinier sur le site d'Elior à La Défense. Chaque jour, il compose minutieusement les menus pour ce restaurant d'entreprise. Et depuis la mise en place du Nutri-Score, il ne cesse de modifier ses recettes.
Ça a été un problème où il a fallu qu'on fasse des tests pour arriver à point avec une recette au top, avec le goût attendu. Et là, on passe d'un Nutri-Score C ou D à A.
Remplacer l'huile par du fromage blanc dans la vinaigrette. Préférer la fleur de coco au sucre dans les desserts. Pour tenir la promesse d'une cuisine plus saine et plus vertueuse, le chef a aussi dû faire preuve d'imagination.
Certains desserts, notamment un gâteau au chocolat, on remplace le beurre par de la courgette. Ça fait le même effet, ça amène justement un petit plus au niveau du goût et ça remonte le Nutri-Score. Donc là, on a une bonne note.
Ce gâteau au chocolat courgette et d'autres produits allégés en sucre et en matière grasse figurent au menu de 500 cantines scolaires en France. L'objectif ? Modifier les habitudes alimentaires de ces jeunes consommateurs.
Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1.
Merci Fanny Marceau. 6h39, si je vous demande comment ça va, tiens, la question elle prend un sens particulier ce matin. C'est ce lundi, la journée mondiale de la santé mentale. Dans un instant, je reçois Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC. On va s'intéresser avec lui à la santé psychologique des cadres et plus largement d'ailleurs à la santé mentale en entreprise. A tout de suite.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
La Caisse d'Épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Ce lundi est marqué par la journée mondiale de la santé mentale. Nous avons tous été éprouvés par la pandémie de Covid, maintenant par la guerre en Ukraine et ses conséquences. L'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, vient de publier une étude sur la santé psychologique des cadres. On va s'arrêter sur ses principaux résultats avec votre invité Alexandre. C'est Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC.
Bonjour Gilles Gâteau.
Bonjour.
Premier renseignement de votre étude. Un cadre sur quatre estime que sa santé mentale s'est dégradée dans les deux dernières années. 25% des cadres. Il vous explique pourquoi.
Alors, merci d'abord d'aborder ce sujet parce que la santé mentale, c'est la journée mondiale aujourd'hui.
Oui.
La santé psychologique au travail, c'est un peu tabou. Souvent, on n'en parle pas. Et ça concerne tous les salariés, tous ceux qui travaillent. Et les cadres, comme les autres catégories de salariés. On a beaucoup parlé pendant la pandémie des travailleurs de la première ligne, hein, et à juste titre, pendant la crise sanitaire, dans la santé, la distribution. Parmi eux, il y avait bien sûr aussi des cadres, des médecins, des ingénieurs. Et puis les autres, si on parle des cadres qui étaient souvent en télétravail, ils ont malgré tout été confrontés à une situation totalement inédite et très éprouvante aussi. Par exemple, les managers qui encadrent des équipes n'étaient pas du tout préparés à devoir manager à distance pendant des semaines et maintenir un peu un collectif de travail, prêter attention aux autres, à chacun. Voilà, tout ça a créé des situations inédites qui sont parfois venues se surajouter à des réalités plus quotidiennes ou plus permanentes de la charge de travail ou de la charge mentale que peuvent ressentir beaucoup de salariés, notamment beaucoup de cadres.
Voilà. Alors,
donc, c'est
effectivement ce qui ressort dans Gilles Gâteau, dans votre étude. Hein. Vous parlez de la surcharge de travail, la charge mentale, stress intense, voire épuisement professionnel.
Oui, alors parfois on parle de burn-out et il faut faire très attention évidemment à ne pas employer ce mot de façon trop banalisée.
Oui.
Parce que quand on interroge les cadres, ils sont un peu plus de la moitié, 55%, à dire qu'ils ressentent souvent ou occasionnellement la sensation d'avoir une charge de travail insurmontable ou de subir un épuisement professionnel. Parmi eux, il y en a 14% qui disent que c'est souvent qu'ils ont ce sentiment. Là, il y a un signal d'alerte parce que effectivement, cet épuisement professionnel qui peut survenir quand on tire trop sur la corde, comme on dit, hein, quand au bout d'un moment, on n'arrive plus à gérer une charge de travail, on n'arrive plus à décrocher le soir, le week-end, on est en permanence en stress. Là, il y a un peu de danger. Et ce que montre aussi notre enquête, hein, c'est que c'est arrivé à pratiquement un cadre sur 5, 19%, de devoir prendre un congé ou un arrêt de travail parce qu'ils ont le sentiment d'être professionnellement épuisés.
Ce que met en lumière votre étude aussi, Gilles Gâteau, c'est un retard, voire une carence hein, dans la prise en charge de la santé mentale au travail. En tout cas, près d'un cadre sur deux juge les actions de leur entreprise insuffisantes dans ce domaine.
Oui, je crois qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas complètement faite. Quand on parle de santé, on pense souvent voilà, à des symptômes ou à des maladies qui ne sont pas forcément associées à la santé mentale. La déprime, les situations de stress ou d'épuisement sont peut-être moins bien regardées. On y prête peut-être moins d'attention. Et là, il y a une vigilance à avoir qui se développe d'ailleurs. Hein. Dans cette même enquête, on a une majorité de cadres qui considèrent que leur manager est plutôt vigilant quant à leur santé psychologique ou à la santé psychologique de leurs équipes. Mais on en a quand même 18% pour dire qu'il n'est pas du tout vigilant. Donc on voit que cette prise de conscience, elle doit continuer à se développer. Elle concerne les managers, mais aussi les collègues. Dans cette même enquête, on demande, si vous aviez, vous, demain, une situation de difficulté psychologique, avec qui en parleriez-vous? Ben, à peu près dans la même proportion, ceux qui disent « j'en parlerai à mon manager », qui disent aussi « j'en parlerai à mes collègues ». Donc on a aussi tout un réseau dans l'entreprise, qui est une communauté qui peut agir dès qu'il voit quelqu'un ou quelqu'une qui est dans une situation de souffrance psychologique.
Gilles Gâteau, il y a quelques semaines, ici même, hein, sur Europa, on parlait de cette nouvelle tendance en entreprise, le quiet quitting ou démission silencieuse. Pour les salariés, c'est en quelque sorte rejeter l'idée selon laquelle le travail serait toute notre vie. On a là le signe d'un malaise profond, c'est un réflexe de protection par rapport à cette souffrance au travail.
En tout cas, c'est le signe d'une aspiration de plus en plus des salariés, notamment des plus jeunes, à avoir un travail qui ait du sens et un travail qui ne soit pas le synonyme d'une souffrance ou d'une frustration trop forte. Ça, je crois que cette tendance, elle existe réellement, qu'il faut la prendre en considération et que les employeurs qui ont de plus en plus de difficultés aujourd'hui à recruter sont de toute façon un peu condamnés à devoir prêter cette attention à ce type de phénomène.
Merci Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, Association pour l'emploi des cadres. Vous venez donc de publier cette étude sur la santé psychologique des cadres en entreprise.
C'était l'Interview Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Europe 1, il est 6h49.
Europe Matin.
Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Bonjour Anissé.
Et votre innovation du jour fait dans le gigantisme. En France, nous avons des écluses, mais en Allemagne, on vient d'inaugurer un ascenseur à bateau, carrément.
Oui, ça se passe dans la ville de Niederfinow, près de Berlin, dans le nord-est de l'Allemagne. Et pour le coup, ils ont vu les choses en très grand. Il faut imaginer un ascenseur géant dans lequel on fait entrer un bac immense avec l'eau, la péniche et son chargement. Tout ce beau monde va ensuite pouvoir monter ou descendre sur 36 mètres, ce qui permet de faire passer des embarcations d'un canal vers un autre, situé soit en contrebas, soit en contre-haut. Mmh. Et l'objectif, c'est de donner un nouvel élan au transport fluvial, car en Allemagne, les trois quarts du transport de marchandises s'effectuent par la route. En France, on a la chance de passer pas mal aussi par le train. Alors évidemment, c'est un ouvrage pharaonique. La construction n'a fait qu'accumuler des déboires, si bien qu'il vient d'être inauguré avec 8 ans de retard, pour un coût qui est deux fois plus élevé que prévu.
Alors pourquoi ne pas avoir construit tout simplement une écluse, même sur 36 mètres, ça paraît quand même moins compliqué.
Oui, mais c'est beaucoup moins compliqué, mais on a préféré l'ascenseur, d'abord parce que le passage sera plus rapide, on n'a pas à attendre pendant des heures que l'eau remplisse le bassin. Là, en moins de 5 minutes, le bateau va passer d'un niveau à un autre. Avec l'ascenseur, on évite aussi de perdre pas mal de tonnes d'eau, parce que remplir le sas, on est toujours obligé de récupérer de l'eau qui vient de l'amont, qui est ensuite utilisée pour être vidée vers le canal aval. Du coup, bah, il faut régulièrement réalimenter le fameux canal amont si on ne veut pas qu'il se vise petit à petit, hein, ce qui devient un réel problème en ces périodes où on connaît pas mal de sécheresses comme cet été. Mais encore une fois, un ascenseur à bateau, ça coûte très cher et c'est pour ça qu'ils sont plus rares que les écluses.
Alors, un ascenseur à bateau de 36 mètres, est-ce que c'est le record ?
Alors, c'était le record au moment de la conception, c'était vraiment le plus grand, mais comme la construction a traîné, bah, ils sont fait dépasser par deux autres ascenseurs. Celui de Stépy-Thieu en Belgique, qui fait 73 mètres, et celui, surtout, du barrage des Trois Gorges en Chine, qui lui atteint 113 mètres. Alors, je ne sais pas si vous imaginez 113 mètres, c'est la hauteur du deuxième étage de la Tour Eiffel. Et moi, j'ai toujours été fasciné par ce genre d'ouvrage incroyable, l'homme est assez formidable, d'autant plus quand ces ouvrages ont un impact positif, puisqu'à chaque fois, hein, ces ascenseurs à bateau développent le transport fluvial.
Merci beaucoup, Nicéa.
Merci, Nicéa.
Europe Matin.
6h51 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
À quand la fin des grèves dans les raffineries ? La direction de Total fait un geste et avance les négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre. Les syndicats réclament 10% d'augmentation. En attendant, une station sur trois manque de carburant. En France, selon le gouvernement, 60% dans les Hauts-de-France, 50% en région parisienne. Témoignage très attendu aujourd'hui au procès de l'attentat de Nice. François Molins, ancien procureur antiterroriste. François Hollande et son ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, seront interrogés aujourd'hui. Et puis Emmanuel Macron est en Mayenne. Aujourd'hui, il inaugurera la sous-préfecture de Château-Gontier, la première des six dont il a promis la réouverture ou la création. Objectif, vanter le retour de l'État dans les territoires ruraux.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe Matin.
Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Première étape ce lundi matin au Brésil avec Jean-Claude Gérez. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour. Eh bien, un sondage.
Qu'est-ce qui fait la une des journaux brésiliens, Jean-Claude Gérez ? Jean-Claude Gérez n'est pas avec nous. Jean-Claude, la une des journaux brésiliens ce lundi matin.
Bonjour. Eh bien, un sondage publié ce dimanche par l'Institut Datafolha, largement repris par la presse, et qui revient sur le premier tour des élections présidentielles. Il révèle notamment que 10% des électeurs ont choisi leur candidat la veille ou le jour même du scrutin. Pour le second tour, le dimanche 30 octobre, le site G1 indique que Lula est donné vainqueur avec 53% des suffrages devant Jair Bolsonaro, 47%. Le premier, précise la Folha de São Paulo, est considéré comme le plus apte à défendre les droits des travailleurs, ceux des minorités et l'environnement. Le second, souligne Poder 360, est perçu comme celui qui peut le mieux combattre la criminalité et défendre les valeurs de la famille traditionnelle. Cette enquête d'opinion est cependant accueillie avec prudence par différents commentateurs politiques qui rappellent, comme dans le quotidien A Tarde, que Lula était donné vainqueur dès le premier tour par plusieurs instituts de sondage.
Nous sommes aussi ce matin en Belgique avec vous, Laura Vallerberg. Que découvre-t-on dans la presse belge ?
La date désormais connue du procès des attentats de Bruxelles, les audiences commenceront le 5 décembre, titre le journal L'Écho. Censé démarrer ce lundi avec la composition du jury, il a été reporté. En cause, les box des accusés compartimentés en cellules individuelles vitrées, rappelle le quotidien. La présidente de la cour avait ordonné le démontage de l'infrastructure, la jugeant attentatoire aux droits de la défense. Mais le journal Le Soir le précise, la box nouvelle version va permettre aux accusés d'être assis dans un espace commun. Il aura donc fallu 6 ans pour avoir enfin une date sûre et certaine, écrit le journal La Libre Belgique. Mais 6 ans, c'est beaucoup trop long, poursuit-il. Pour les victimes qui ont dû vivre avec douleur les passes d'armes entre le parquet, la cour d'appel et la cour d'assises, que justice se fasse maintenant, conclut-il.
Merci Laura Vallerberg, merci à nos correspondants. 6h54, dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.
Europe Matin, 6h57, belle matinée avec Europe 1.
Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour.
Bonjour.